off to invisible grounds. Don't know when to stop returning. It's not the way for me. Only a mile to go. Somewhere I'll belong. I'll see.
Bonjour à tous, merci d'être là, bienvenue dans cette matinée étienne du mardi, je crois, mardi 18 novembre 2025. Je crois qu'il fait froid aussi, en se promenant en vacances et ses occupations dans la journée, on croise des gens. Ouais, nouveau sommaire. Ouais, on va sur Twitch, on va remercier un certain ami que vous connaissez qui s'appelle Renifleur de Paix, P-A-X, et on croise des gens. Et ces gens vous parlent de la météo, parce que la météo c'est important. Et des gens que j'ai croisés hier m'ont dit: Monsieur Étienne, ça va cailler demain. Et j'écoute ça d'une oreille distraite, et je crois bien qu'effectivement, ça s'est refroidi. Il fait froid chez vous? Je vois des messages qui méritent de la force, quoi. Non, Sugar, Samuel Étienne, il y a l'autre sommaire qui est en préparation aussi. Ouais, mais j'ai pas de nouvelles de l'autre sommaire, là. Faudrait que je relance Joe là-dessus. Et là, c'est l'ami Renifleur de Paix qui m'a proposé celui-là. Alors qu'il est ami TikTok, je suis désolé, hein, qu'il est que sur Twitch pour l'instant. Vous avez l'ancien sommaire. Ouais. Il est joli, hein. Vous avez vu? Vous avez vu comme c'est beau, comme c'est lisible. À défaut de la pensée du streamer, au moins le sommaire, il est propre. Ouais, c'est l'ami Renifleur de Paix qui nous la dev. Voilà. Oui, je disais, il y a des messages qui méritent qu'on leur envoie de la force. Je remonte un petit peu dans le chat. Ariette, je retourne au taf aujourd'hui après 15 jours d'arrêt. Je me suis fait défoncer par ma boss. Genre, la confiance est brisée. Bonne ambiance de bon matin. Ariette, on t'envoie de la force. Un peu plus haut, j'ai lu. Une histoire d'université. Samiron, 30-20-06. L'université, ça me démoralise. Mais putain, mais bien sûr. Mais je pense que la plupart des gens qui sont passés par des études supérieures ici, en fac, en école ou ailleurs, ont eu ces moments où ils perdaient un peu pied, quoi. Et la fac, c'est particulier, en plus. T'es pas très accompagné, contrairement au système scolaire, quoi. Et parfois, c'est chaud. Moi, je suis vite fait passé en fac, j'avoue que j'ai du mal à me motiver, quoi. Donc, on connaît. On trouve les moyens, trouve les gens qui vont pouvoir t'accompagner, t'encadrer, t'encourager, trouve des amis avec qui tu bossais. Voilà, il faut trouver cette motivation, c'est hyper important parce qu'après tu vas regretter. C'est pas comme moi, va pas au café toute la journée, quoi. Hein, sinon tu vas finir par faire un métier de punk à chien, quoi. C'est un genre streamer, quoi. Non, c'est un super métier. Pardon. Oh putain, faut pas que je tende le bras comme ça après les gens interprètent. Merci FPL59 pour le Prime. Merci Julio Franchute pour le 50e mois d'abonnement. Dieu, c'est énorme. 50 mois d'abonnement consécutif. Il y a des gens qui me soutiennent depuis bientôt... depuis 5 ans, quoi. Ça va faire. Hein, 5, 60. Waouh. Faut que je pense à un badge pour les 60 mois. Hein, faut que je bosse. Merci John Too pour le 19e mois. Merci Zephyr pour le 39e mois. Vous trouvez ça pas impressionnant? Merci Rimek pour ton message qui m'a touché pour le 38e mois aussi. Merci Emmanuel. Manuel 27. Je crois que tu étais le premier à sub ce matin. 31 mois. Merci à toi. Salut Lydia. Attendez, il faut que je vous remette le MVP de demain. Ça, c'est important ça. Bon, vous, ça va? Merci Skyfox. C'est une sale période de l'année aussi, me dit Cara. Les journées sont courtes, la température chute. Courage, c'est bientôt fin novembre et dans un mois, les jours se rallongent. J'aime bien cet optimisme. Moi, j'ai envie de dire c'est bientôt l'été. Hein. Juillet est là. Hein. Enfin, pas là, mais... Bravo. Rah, cette photo, Sam. Qu'est-ce qu'il y a, cette photo? C'est pas moi en bas, hein, le beau gosse, hein, c'est Mastu. Hein. Bon, vous, avant de parler de l'état de la France et de l'état du monde dans la revue de presse, vous, comment ça va? Faudrait voir sur la conf, parce que là, il y a deux devs en parallèle avec une version plus complexe Twitch, TikTok. Mais quelle conf? Je sais pas si tu me parles de Discord, moi, je suis jamais sur Discord. Parce que je suis absolument pas au courant de la conf. Faut me mettre ça dans la conf DMX. Si vous voulez me tenir au courant, le vieux, je ne suis au courant de strictement rien. J'ai zéro news. Déplacement pro à Paris aujourd'hui, comme à chaque fois, je sais pourquoi j'y habite plus. Ah, ça va en vrai, Paris, c'est... Il y a des aspects sympas et des aspects moins sympas, quoi. Comme toute ville. Comment ça, il fait trop chaud? C'est vrai que j'ai peut-être changé la police sur TikTok, ouais. Attendez, c'est vrai qu'elle est... Je crois que la police du sommaire sur TikTok, je crois qu'elle est moins bien. Ah non, c'est TikTok... Attends, j'ai mis du bold. Du classique, peut-être. Mieux, là, mieux. Mieux. Allez, attendez, les amis, on est sur... Mieux. Je suis avec la police de caractère sur TikTok, les amis. Mieux, moins bien. Mieux. Ok, attendez, je fais des tests. Là, j'ai mis classique. Je peux vous proposer... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, après, c'est... Ah, Arial, peut-être. Attendez, Arial. Enfin, c'est pas joli, mais c'est... C'est pas joli, mais c'est plus clair. Donc, pensez quoi? Excusez-moi, on est sûr. Ah, c'est mieux, hein? C'est plus lisible. Ouais. C'est moins joli, mais c'est vachement plus lisible. Let's go, c'est vendu! Alors, quelqu'un me dit, moi j'ai trop chaud, moi, cette histoire. Où est-ce que tu es, toi? Il fait trop chaud. 29 degrés à La Réunion. Comment ça flex? La chance. Merci Alcas pour ton message, ton 8e mois d'abonnement. Merci Valentina pour ton 15e mois d'abonnement. Merci FPL59. Merci encore Julio Franchute. Incroyable. Hanouna a parlé de toi hier soir. Mais c'est ça part d'une bonne intention. Moi, je remercie tous ces médias. Cyril, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est un ami qui donne de la force en ce moment. Les CNews, les BFM, les Morandini. tous ces médias de qualité. Et effectivement, l'ami Cyril, hier, c'est cool de parler de mon actualité. Ça fait plaisir. Mais vous inquiétez pas, dans 24 heures, ça passera à autre chose. Hein. Faut pas faire attention non plus. Il faut nourrir le moteur. Qui vous raconter sinon? Je sais que je suis passé un petit peu sur les chaînes de télé hier. Alors, j'étais un peu déçu ce matin. Parce qu'effectivement, hier, vous avez été nombreux à m'alerter. Ah là là, on parle de toi sur Morandini, sur CNews, sur BFM, et chez l'ami Cyril. Et je me suis dit, bon, bah alors, si ce que j'ai dit est tellement important et tellement fou, et tellement marquant pour que certains y consacrent de l'antenne quand même, c'est fou, ça va être ce matin dans les journaux. Ces journaux de qualité qu'on consomme le matin, qui nous permettent de réfléchir un petit peu à l'actualité de façon un petit peu apaisée. Et j'ai lu Le Parisien, rien. J'ai lu Libération, rien. J'ai lu Le Figaro, rien. Pas un mot sur Samuel Etienne. J'ai lu La Croix, devinez, rien. J'ai lu L'Humanité, rien. J'ai lu L'Opinion. L'Opinion, rien. Bon. J'ai lu Les Échos, rien. Je me suis dit, bon, une brève dans L'Équipe, non. Le Monde, rien. C'est bien ce que je disais, ça n'a pas beaucoup d'importance. Boubou, un peu le melon de vieux, ouais. Je crois que tu n'as pas bien compris la vanne, mais c'est pas grave, le second degré n'est pas qu'une température. Alors, par contre, pour bien choisir un melon, il faut que tu lui sentes le cul. Hein, moi j'ai quand j'étais jeune, j'ai beaucoup travaillé dans des poissonneries, des magasins de fruits et légumes pour me faire un peu d'argent de poche. Et le melon, quand c'est la saison du melon, il faut qu'il ait ce petit parfum un petit peu sucré, pas trop, parce que là ça veut dire qu'il est trop mûr. Tu le tournes, hein, pas du côté où il y a la queue, de l'autre côté, le melon. Voilà. Et là tu approches ton nez, tu colles pas ton nez sur le melon. Hein, y a d'autres gens qui vont coller ton nez après dessus. C'est dégueulasse. Donc, tu t'approches du cul du melon et tu sens. Voilà, s'il sort du frigo du marchand de primeur, tu vas rien sentir. Le froid, il va tuer le parfum. Mais normalement, si tu le sens un petit peu, tu vas avoir un délicat parfum. Pas trop fort, c'est-à-dire qu'il est trop mûr. T'as un petit parfum un petit peu sucré, un petit quelque chose. Là, ça veut dire que ton melon, il est pas mal. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des conseils aussi. Côté cul, hein. Côté cul. Salut Chandris. Entre eux aussi, ils choisissent comme ça, en se sentant le cul entre vieux. C'est quoi ce racisme anti-vieux? Les jeunes, ils font pareil. Hein. Bien plus même, bien plus d'ailleurs. Hein. D'abord, je rappellerai qu'on ne renifle pas le cul, Didier. Merci, Skyly. Voilà. C'est surtout les jeunes qui sentent le cul, si je peux me permettre. Mais Samuel, tu as parlé de quoi pour passer autant à l'antenne? Enfin, certaines antennes, Hugues, hein, ne nous trompons pas. Rien, j'ai rappelé juste un fait qui n'a rien de polémique. Enfin, il y a quelques années, à aucun moment, c'était un débat, mais c'est devenu un débat dans la France d'aujourd'hui parce que les choses ont changé. Mais pour moi, ça n'est toujours pas un débat. Alors, Emmanuel Barré, je ne suis pas au courant, Mouilly. Je vais aller voir ça. Joli, beginner. Bravo pour la nouvelle. Aux States, ils parlent que de toi, t'inquiète. Ah, zut. Putain, mais il y a plein de messages ce matin, ça fait plaisir. Soutien à Pierre-Emmanuel Barré. C'est quoi cette histoire de plainte, là? On va les voir. Oui, c'est Pierre-Emmanuel Barré, d'ailleurs. Le ministre de l'Intérieur a porté plainte contre... C'est Emmanuel Barré ou c'est Pierre-Emmanuel Barré? Je vais aller voir, j'ai pas d'article ce matin là-dessus, je vais aller voir, ok. Merci Elgas pour ton message, merci pour le 8e mois. Ok, on va aller voir ça. Ok, mais bon, mon plaisir, moi, c'est de vous lire. Hein. Normalement, l'intro, c'est une demi-heure, on est à combien là? Oula, 15 minutes, oh, oh, c'est Pierre-Emmanuel, c'est ça. Hein. Trump a dit que tu es son ami. Pop. Trump a dit que j'étais son ami, Gélix. Mais je suis à deux doigts d'être dans le fichier Epstein, moi, non? Putain, mais en plus, Trump, il a changé d'avis. Il veut publier le fameux fichier d'Epstein. Merde. Ah, mince. Salut Major Phoenix. Merci pour ton message. Epstein File. Mince. Merci Diesel, je crois que tu as compris, effectivement. Ouais. On en parle des baisses drastiques de température, mais chamallow. Mais oui, j'en parlais tout à l'heure, c'est fou ça. Eh oui. Merci Nevae pour le 31e mois. Prenez soin de vous, hein. Attention là, en ce moment ça monte, ça descend. Je parle des températures. Hein. C'est vraiment le moment où on attrape des trucs, quoi. J'ai connu un gars ce week-end qui avait un rhume, qui l'a filé à un célèbre présentateur qui va avoir une semaine un enfer. 20 degrés à Nice? Putain, mais vous avez quoi à Nice? C'est quoi ce microclimat? 20 degrés à Nice? On est limite, je crois, on est autour de zéro ce matin sur Paris, je crois. Incroyable. Sugar, j'ai pas vu ta réponse sur le sommaire là. Où est-ce que se passe le débat, Sugar? Il est où le débat dont j'ai pas entendu parler sur le sommaire là? Que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de débat et en fait il y a un débat. C'est où? C'est sur Discord, ça, c'est le truc de votre truc de jeune là, c'est ça, non? C'est ça, 0 degré à Paris? Pop, 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 pop. Degrés sur ma terrasse à Nice. Ah, Linda dit qu'il fait pas 20 degrés à Nice. Ça me paraissait beaucoup 20 degrés. Linda 06. Alors 06, c'est Nice, hein. C'est les Alpes-Maritimes. C'est 13 degrés. Ok. Salut, salut Lily. Merci pour ton message. Merci Sugar Harry. Hey, Sugar, on a un Sugar Harry dans le chat. 22e mois d'abonnement. 15 degrés à Porto Vecchio. Pop, 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 pop. Pop. On a le soleil à Nice, une boule de feu que les Bretons ne connaissent pas. Je connais cette vanne. Il est vraiment malade, Camille, ou il t'a troll? Je sais pas, il m'a dit qu'il était tombé malade, mais je sais pas s'il troll ou pas. 16 à Toulon, c'est parti pour la météo. 8 à Marseille, moins 1 à Dreux. À Paris, caille, me dit-on, moins 1 degré à Lille ce matin. Merci Mella. Merci pour le 21e mois. Hier, 17 degrés. Et aujourd'hui, ça caille. Ok. 9 à Perpignan, 258 degrés sur Mars. 4 à Tarbes. Ah ouais? 4 à Tarbes. 3 à Toulouse? Ah ouais? Mais comment ils font pour avoir 16 degrés à Nice? Qu'est-ce qu'ils font à Nice? Attendez, qu'est-ce qu'ils foutent à Nice pour avoir 16 degrés? 4 degrés à mon cul, me dit Gélix. Ah bon, on pourra pas dire que t'as chaud du. Ok, d'accord. Comment ils font pour avoir 16 degrés à Nice? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 15 degrés à Béziers, vous inventez là. Vous inventez là, non? Vous inventez là, non? Alors, merci Joe. En fait, il y a tout un dev qui a été fait avec une viewer, et notamment Boubou, le tout supervisé par Joe. L'idée qu'on t'avait montrée sur Twitter, c'est pour ça qu'avoir deux devs en parallèle, c'est dommage. Voilà, je suis au courant de rien. Mais, oui, mais moi, je veux bien. Si on me donne pas les infos, je peux pas. J'ai zéro info, moi, là-dessus. Hein, mais zéro. Donc je peux pas. Ça, c'est le sommaire de Renifleur de paix. C'est déjà mieux. C'est quand même mieux que ce. C'est mieux que ce que je faisais avant. Ami de Twitch. Ami de Twitch. Ça, c'était. Attendez. Avant, il n'y avait pas de sommaire. Avant, c'était. T'as qu'à deviner de quoi on parle. T'as qu'à deviner de quoi on a parlé avant. T'as quoi deviner? De quoi on va parler après. Voilà. Puis à un moment, vous m'avez dit, eh Sam, tu veux pas faire un sommaire? J'ai tricoté un truc avec OBS vite fait, et ça a donné ça. En cas, ça c'est celui d'hier. Voilà. Là, effectivement, il y a des viewers, des viewers, c'est adorable, qui ont dit, bon, ça, on va essayer de te rendre ça plus joli. Et donc, j'étais au courant d'un projet, mais j'avais pas trop de nouvelles, donc là, j'en ai. Voilà. Et entre-temps, Renifleur de paix m'a fait ça. C'est beau, hein? Mais bon. L'ami Renifleur de paix, si on a un truc encore mieux demain, il sera OK pour qu'on fasse encore autre chose. D'autant sur TikTok, je suis toujours sur l'ancien format. Parce que sur TikTok, c'est pas OBS. Donc c'est la plateforme maison et est moins facile à utiliser pour faire des trucs un peu jolis, quoi. Mais on vous aime quand même sur TikTok, hein. Par contre, je vais arrêter de changer le titre du stream. Merci Miliane pour ton message. Je vais arrêter de changer le titre du stream. Ça, c'est une nouveauté que j'ai tentée il y a quelques jours. Je change le titre du stream à chaque fois que je change de thème. Bon, c'est très mignon. D'abord, c'est un peu redondant parce que le sommaire, il vous dit déjà où on en est. Et en plus, j'ai appris que ça envoyait des pubs. Allez. J'ai appris que ça envoyait des pubs. Et moi, j'essaie de vous mettre le moins de pubs possible. J'ai enlevé toutes les pubs. Je gagne plus de sous avec les pubs sur Twitch. Zéro. Sauf celle, il y a une que tu peux pas enlever, c'est la pub du pré-roll, c'est la première pub. Celle-là, tu peux pas l'enlever quand tu arrives sur un live Twitch. J'ai enlevé toutes les pubs, mais à 100%, quoi. Tu peux pas avoir de pub normalement pendant un stream, ouais, sauf le pré-roll chez moi. Et j'ai remarqué que quand je changeais le titre du stream, ça envoyait des pubs. Ah bah, on va arrêter ça, hein. Voilà. Merci Major Phoenix. C'est pas facile tous les jours en ce moment, hein. J'ai des petits coups de. Un petit... Hein ? Parfois, c'est chaud parfois, non ? Les gens sont énervés là. Hein ? Ouais, mais bon. Ouais. Camille Combal est en forme. Il me troll, il me dit qu'il a besoin de ma carte vitale pour que je rembourse tous ses frais médicaux. Je sais pas s'il troll ou pas. Je sais pas. Salut ce Smokey. Bon, on va y aller, hein. J'ai des belles actus, comme vous le voyez. D'abord, je vous rappelle que demain est une journée un peu particulière, parce que demain, c'est MVP. C'est une émission qui a lieu en général deux fois par mois, le mercredi. MVP, c'est une émission qu'on a lancée il y a un an. Maintenant, c'est la deuxième saison, dont je suis très très fier. C'est une très belle émission. MVP, MVP. Bon, je dis MVP parce que ça fait penser au basket, à la NBA, vous savez. Mais en fait MVP, c'est pas de la NBA. Hein. Je fais 1m10, donc ça va être compliqué pour la NBA. MVP, c'est ma vie pro. C'est l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. T'es collégien, tu sais pas quoi tu veux faire plus tard. T'es lycéen, tu t'interroges sur ton avenir. T'es étudiant et tu te poses la même question. Tu travailles déjà, mais t'es pas forcément très heureux dans ce que tu fais. T'as envie de changer de métier, de secteur d'activité, d'entreprise, que sais-je. MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. C'est deux fois par la mois. Qu'est-ce qu'on fait ? On reçoit des professionnels de plein de métiers différents. Elle a trouvé son audience. Bah, elle cartonne, Jamax 79. Je comprends pas, c'était le succès de cette émission-là en deuxième saison. C'est un bonheur. On a vraiment... On apprend à changer des choses, mais cette nouvelle formule, elle plaît bien, quoi. Donc, je suis content parce que audience et qualité, c'est pas toujours la même chose. Tu peux faire vachement d'audience et faire un truc qui est moyen. Et tu peux faire parfois de très belles émissions qui sont pas regardées. Audience et qualité, c'est des choses qui peuvent aller ensemble ou pas forcément. Et là, on a une belle émission et qui trouve son audience. Ça, c'est cool. Et donc, on reçoit des pros qui témoignent de leur parcours, de leur métier. On reçoit aussi des chroniqueurs qui nous aident à réfléchir sur le sujet. Voilà. Donc là, demain, 10h, MVP avec Ludovic B, qui est le pilier, qui est là à chaque émission, qui est un spécialiste des métiers. Lorraine Lévy, qui est une spécialiste du bien-être au travail, qui est quelqu'un de formidable, que j'adore. Et Marie Palot, qui revient également, encore une amie. Voilà. Et avec qui on va parler notamment des métiers de la SNCF. C'est une spéciale un petit peu demain. Et puis, à chaque fois, il y a un grand invité, un grand témoin, avec qui on revient sur son parcours. On est sur Twitch. Donc, on aime bien recevoir des créateurs de contenu. Et notamment, là, c'est Mastu. Mastu, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est hyper occupé, mais qui nous fait l'amitié, la gentillesse de venir quand même pour... alors qu'il n'aime pas trop parler de ça, mais bon, on s'entend bien. Donc, Théo, c'est son vrai prénom. Mastu, je me demande d'où ça vient, Mastu, si en fait, je sais. Il vient demain pour nous parler de son parcours. Et juste avant, c'est-à-dire entre 9h et 10h, je vais faire une mini-revue de presse. Voilà. Spécial SNCF, l'émission aura 2 heures de retard. On valide ou pas la blague ? Voilà. J'espère pas, hein ? Ouais, l'histoire Body Minute, je connais, ouais, Tom Thompson, ouais. La pauvre. Bon, bah on va y aller. Hein ? Vous en pensez quoi ? Je vous montre ce qu'il y a dans l'actu ce matin ? En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vamos. Allez, go. 25 minutes d'intro. C'est bien, on est bien. On est bien. Comment ça, impossible de charger les éléments? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Bon, je vais vous verrer déjà. Je vais vous verrer MVP pour que ce soit plus propre. Ok, je vais vous enlever TikTok, je vous enlève MVP et je vous mets la tablette. Et hop, regardez, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Merci Major Phoenix. Merci Jérôme. Vas-y, déballe tout ça. Merci Ragnok, c'est parti. Corentin, j'ai bien le mail des pompiers, hein, j'y pense bien. C'est dans mes priorités. On va faire un stream avec les sapeurs-pompiers là. Bientôt. Alors, d'abord ce matin, on va parler d'Ukraine. Hop, je vous mets là. Attendez. Hop. Toc. Oh, regardez. Hop, vous avez vu comment la flèche s'est mise automatiquement? C'est incroyable. TikTok, vous en êtes où? Parce qu'on est parti sur le sommaire. Je vous mets la petite flèche sur le sommaire. Je suis RN. Bon, je sais que je suis un facho, mais est-ce que je suis obligatoirement con? Ah bah, David Lefloc, tu connais ma réponse. Ici, on... Non seulement on accepte de discuter avec tout le monde, mais on veut discuter avec tout le monde. C'est pas parce que moi j'ai un avis sur le RN que je peux pas discuter avec des électeurs du RN. C'est exactement l'inverse que j'essaie de faire. Alors, j'ai du mal ce matin à parler correctement. Ici, on n'insulte pas les gens. Ici, on ne met pas de côté les gens. Ici, on ne méprise pas les gens. Voilà. Moi, j'ai un avis sur le RN. J'ai rappelé un fait hier ou avant-hier qui a semblé surprendre beaucoup de gens que historiquement, le RN est un parti d'extrême droite pour des raisons politiques, en fait. Quand tu t'intéresses un peu à la science politique, c'est une réponse assez évidente. Mais c'est pas pour ça que je refuse de discuter avec ces électeurs. Au contraire. Moi, j'aime bien discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est même un truc important pour moi. Voilà. Après, on se met d'accord, on se met pas d'accord. Moi, l'idée, c'est plutôt de vous expliquer, je suis pas prof. De vous dire que selon moi, c'est pas ce qu'il faut pour la France. Après, il y a des gens qui sont agressés, comme Paul Foubert dans notre chat qui dit tu es juste méprisant. Non, si j'étais méprisant, je te dirais tu es ES et pas EST. Ça, ce serait méprisant. Elle est facile, celle-là. Non, certains se sentent méprisés, certains se sentent agressés. Parce que certains, vous avez voulu oublier ça. Voilà. Que ce parti pour lequel vous votez ou vous voulez voter, c'est un parti d'extrême droite. Et c'est ça qui vous met en colère. Mais ne le soyez pas. On peut avoir un échange là-dessus. Ouais. Bon, moi, ça fait 5 ans que régulièrement on m'interpelle sur cette question. C'est marrant, ça pop maintenant parce que certains ont envie de faire leur beurre là-dessus. Hein, ça va chercher du like, ça va chercher du buzz. Mais moi, ça fait 5 ans que sur ma chaîne, les habitués le savent. J'explique quand la question m'est posée, notamment par les électeurs du RN, pourquoi ce parti est un parti d'extrême droite. Voilà. Mais contrairement à certains, moi, je n'insulte pas ces électeurs et je ne les méprise pas. Voilà. Au contraire, moi, j'aime bien discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Idéalement pour vous faire changer d'avis, mais si j'arrive pas à vous faire changer d'avis, c'est pas grave, on va continuer à discuter. Parce que discuter, c'est mieux que s'insulter. Voilà. En revanche, je note dans les mails et les messages que je reçois, alors les messages publics et les petits mails que je reçois comment ils disent les jeunes? En soum-soum, un truc comme ça. Une violence, une agressivité qui est surréaliste, quoi. Donc je note que ce souhait du débat et de la discussion. On dit en soum-soum, c'est ça? Il n'est pas partagé par tous, quoi. Ça, par contre, je le méprise. Pas tellement les idées, mais les façons de les exprimer, quoi. Bon. Et après, il y a les gens qui veulent le comprendre, puis il y a les gens qui ne veulent pas le comprendre. Bon, moi, je vais bien discuter avec les gens qui veulent bien le comprendre. Ok? Ce qui est affreux, c'est que les habitués vont finir par s'enlacer parce que ça fait 5 ans que je dis la même chose. C'est ça qui est fatigant, en fait. Ça fait 5 ans que je dis la même chose. Mais il y a les gens qui bloquent, en fait, qui veulent qu'on les valide. Mais moi, je suis pas là pour vous valider, moi, les gars. Moi, je suis pas là pour que vous soyez heureux de votre vote, quoi. Moi, c'est ma chaîne, en fait. Et sur ma chaîne, j'ai le droit encore d'exprimer mes idées, quoi. Donc, si ça vous irrite, allez consommer le contenu d'un journaliste ou d'un créateur de contenu qui pense comme vous, si vous ne supportez pas cette contradiction. Mais moi, je ne suis pas là pour vous valider. Je suis là pour vous donner, moi, mon avis là-dessus. Qui n'est que mon avis, d'ailleurs. Qui ne vaut que ça, qui ne vaut pas grand-chose. Mais pourquoi ça vous met à ce point en colère? Je sais pas, interrogez-vous d'ailleurs. Vous avez besoin d'être validé. Vous avez besoin qu'on vous dise c'est bien, tu as raison. Je suis pas là pour ça, moi. C'est pas mon problème. Je comprends pas pourquoi ça provoque cette colère, en fait. Il y a énormément de gens qui pensent pas comme moi, ça me met pas en colère. Pourquoi vous êtes en colère comme ça? C'est ça qui est, ça que j'arrive pas à comprendre. Ouais. C'est là où je pense où les réseaux sociaux sont une caisse de résonance négative de cette polarisation des opinions politiques en France, quoi. Voilà. Vous voyez, j'en parle paisiblement parce que moi, je suis ok pour en parler, en fait. Et moi, j'ai pas la certitude d'avoir raison. Hein. Je ne fais qu'émettre des avis, des opinions. Et j'aime bien en discuter avec les gens. Mais ça provoque de la colère. C'est ça qui est intéressant. J'aimerais bien qu'on s'interroge sur pourquoi ça provoque autant de colère. Et après, je pourrais aussi éviter de prendre position là-dessus. Hein, en tant que bon créateur de contenu qui cherche à pas faire de vagues. Le type te traite de facho, mais il faut pas se mettre en colère. Mais je ne te traite pas de facho, moi, justement. Mais c'est ça, en fait, vous faites des raccourcis. Allez me trouver l'extrait où je dis que vous êtes des fachos. Mais c'est ça qui est problématique, je ne l'ai jamais dit. Aujourd'hui, par exemple, dire que, historiquement, et encore, hélas, dans son actualité, par son centre de gravité, son logiciel idéologique, ses prises de position, les condamnations de ses membres. Je ne parle pas d'histoire, je parle d'actualité, je parle de choses qui sont passées ces derniers mois. À mon sens, le RN est un parti d'extrême droite, à mon sens. Ça ne veut pas dire, par exemple, que le RN est un parti fasciste. Parce que c'est encore autre chose. Et il faut s'intéresser à la définition du fascisme. Mais on ne m'a pas posé la question. Mais si tu me poses la question, est-ce que le RN est un parti fasciste, je vais t'expliquer que non, je vais t'expliquer pourquoi. Mais c'est là, en fait, où les gens comprennent tout et surtout, à mon avis, ils ne maîtrisent pas bien les mots qu'ils utilisent. Je ne peux pas traiter un électeur de RN de facho parce qu'aujourd'hui, le RN n'est pas un fascisme. Ouais. Mais c'est ça le problème, c'est que vous faites des raccourcis façon Mario Kart, en fait. Ça flirte un peu quand même. Bah, pas pour les gens qui connaissent le sens des termes, mais je crois que l'un des problèmes dans notre débat public, c'est que les gens ne connaissent pas le sens des mots, en fait. Ouais. Là, à un moment, il faut revenir sur l'histoire, en fait. Mais peu importe. Donc, bref, je pourrais aller à la facilité et ne pas parler de ces sujets. Mais comment ne pas parler de ces sujets qui sont au cœur de notre débat politique ? Quand tu t'intéresses, comme je le fais quotidiennement, à l'actualité, comment le faire. Et puis à un moment, après tout, quand on a un piètre avis sur un sujet et qu'on est sur sa chaîne, on a le droit de l'exprimer. Voilà. Et c'est ce que je me permets de faire. Ouais. Quitte à ce que ça fâche un peu parfois. Et peu importe. Mais encore une fois, si vous voulez vous rester dans une... Quelle que soit votre sensibilité politique, une bulle informationnelle de gens qui pensent comme vous, qui vont vous valider, qui vont vous conforter dans vos idées, je pense qu'il faut trouver des médias, c'est un conseil que je vous donne, ou des créateurs de contenu qui pensent comme vous et qui vont aller dans votre sens. Bon, et vous allez vous informer, vous enfermer dans une petite bulle informationnelle de gens qui pensent comme vous et vous allez finir par vous dire que tout le monde pense comme vous ou tout le monde doit penser comme vous. Alors que moi, j'aime bien, au contraire, que dans ma communauté, dans mon chat, et il y en a beaucoup, qu'il y ait des gens qui ne pensent pas comme moi. Régulièrement, il y a des gens qui m'écrivent dans ce chat et ça me fait plaisir. Je ne pense pas comme toi, mais je suis OK pour en discuter avec toi. Ça, j'aime bien ça. Mais ça, j'ai l'impression que ça se perd un peu dans notre pays. Je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, sommaire. Let's go. Alors, sommaire, on va mettre un TC, du coup, on est à 35 minutes. C'est bien, on n'a pas pris trop de retard. Ok. Interagir. Voilà. C'est parti. Oh, c'est bizarre ce qu'il m'a fait là. Ouais. 35. On va faire comme ça? Ah! Ouais, je découvre. Bon, on va laisser comme ça. 35, ok. Ok, ça marche comme ça. Ok. C'est bien, 35, ok, let's go. C'est parti. C'est écrit tout petit quand même, hein. Sommaire joli. Je l'ai appelé sommaire joli. 35. C'est un peu petit quand même. 35. Ah, si je fais comme ça. Ah non. Pourquoi il fait ça? Si je fais ça. Ah, c'est pas mal ça. Ok, ça fonctionne. C'est les parenthèses. Ok. Alors, de quoi je vous parle ce matin? On va parler de l'Ukraine. T'inquiète, renouveleur de paix. On est en réglage. On va parler de l'Ukraine. Alors d'abord avec une actualité dont vous avez été les premiers à me parler hier, en me disant, hey, Sam, hier, t'as vu, il y a eu un accord signé entre la France et l'Ukraine sur le petit panda. Je suis désolé, on vient de répondre à cette question pendant 20 minutes. Faut que t'écoutes le replay sur Twitch. Non pas que je veux pas te répondre, mais on vient littéralement de te répondre en disant que tu es le bienvenu. Je résume, mais petit panda, tu es le bienvenu. Voilà. Pattaya. Vie, j'espère que tu vis ta meilleure vie à Pattaya. Tu es le bienvenu aussi. Voilà, c'est la philosophie de cette chaîne aussi. Donc, hier, vous m'avez dit, Sam, est-ce que tu as vu l'accord signé entre la France et l'Ukraine sur les Rafales? L'Ukraine aurait signé une commande de 100 Rafales, les avions de combat, à la France. Qu'est-ce que c'est exactement cette histoire? C'est bien d'avoir 24 heures de décalage. Le Parisien est allé un peu collecter les infos, comme d'autres médias. De rien, Pattaya. De rien, petit panda. Et on va voir de quoi il retourne. Vous allez voir que la commande, elle n'est pas ferme, ferme, ferme. Et il y a beaucoup de questions sur cette commande. Est-ce qu'elle va vraiment se réaliser? Est-ce qu'on va vraiment livrer 100 avions à l'Ukraine dans les prochaines années? C'est plus compliqué que ça. Mais ce n'est pas inintéressant. Bon, voilà. Mais on a bien mieux que ça sur l'Ukraine. Ce matin, il y a un dossier dans Le Monde, c'est même la une du Monde, sur l'état de la. De... Ah, mais on est toujours dans le sommaire là. Bon. Hop. Là, regarde. Hop. On est toujours dans le sommaire, les amis. Là. Sur l'état du pays. Et il va pas très fort. Voilà. Avancée russe. Bon, ça, sur le plan militaire, on sait que c'est un peu compliqué pour l'armée ukrainienne depuis quelques mois. C'est pas que l'armée russe avance très vite, mais elle avance. Avancée russe, corruption. Voilà. Et ça, c'est un sujet dont il faut parler aussi. C'est pas parce que l'Ukraine est le pays agressé. Ça a encore provoqué des débats, ça. Oui, mais pourquoi tu... C'est pas parce que l'Ukraine est le pays agressé et la Russie le pays agresseur qu'il n'y a pas des soucis en Ukraine. Et notamment, il y a eu une énorme affaire de corruption en Ukraine. Et ne pas en parler, bah, ce serait pas honnête. Hein, y a, parfois, le. Le, parfois, le camp du bien, il s'y passe des choses un peu étranges. Et là, il y a une énorme affaire de corruption. Fragilisé par un vaste scandale de corruption et par la pression russe, ben, c'est un des proches de Zelensky qui ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Vous allez voir, on parle en dizaines de millions d'euros. Fragilisé par un vaste scandale de corruption et par la pression russe, le président ukrainien cherche le soutien d'Athènes, de Paris, de Madrid. Plusieurs proches du chef de l'État sont accusés d'avoir détourné environ 100 millions de dollars. Ça parle en dollars, du secteur énergétique ukrainien. Dans un pays en guerre, ça fait bien désordre. Hein. Voilà. Et il faut parler de ça. Ces révélations ulcèrent une population, on l'imagine bien, épuisée et meurtrie par la guerre et les bombardements incessants des sites de production énergétique. Ouais. Sur le front, la situation militaire, elle aussi, est préoccupante. Pourquoi le camp du bien? Oh, c'est pour résumer, tout simplement parce qu'il y a un pays agressé et un pays agresseur. Voilà. Pour ceux à qui ça a échappé, l'Ukraine, c'est un pays qui a été agressé par une armée, l'armée russe, et il y a un pays agresseur qui est celui qui a voulu envahir ce pays. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, bon, on peut en discuter, mais ça va être compliqué de faire mentir les faits. Sur le front, la situation militaire. Vous voulez vraiment qu'on ait des débats sur tout, hein, c'est génial, j'adore. Pourquoi la Russie est agresseur plutôt agressée? Ben, je sais pas, le concept de frontière d'un pays, ça vous parle ou pas? Putain, c'est un enfer, je vais arrêter la revue de presse, moi. Pff, entre les incels. L'extrême droite et les pro-russes, à un moment, je vais faire un stream de belote, moi. Le concept de frontière, ça vous parle? À un moment, il y a un pays qui a décidé d'envahir un autre. Ça vous. Voilà. On va aussi se payer les bottes pro-russes ce matin? Oh putain, merde. Moi, je vais lancer Valo, hein. Donc, sur le front, la situation militaire, elle aussi, est préoccupante. La chute de la ville de Pokrovsk semble imminente. C'est pas les mêmes, d'ailleurs, parfois. Pardon, excusez-moi, je suis un peu méchant. Affaiblit l'Ukraine au seuil d'un hiver critique. Donc, on lira ce dossier dans Le Monde. Ah, on revient en France. Alors la transition est un peu étrange, voilà, comme ça vous allez dire c'est super léger, et en fait pas tant que ça. La une du Parisien c'est « Peut-on encore bien manger? » Tu passes de la guerre en Ukraine au bien manger. Ouais, non, non. L'interrogation du Parisien, elle est sur tous les polluants qu'il y a dans notre nourriture. Et des polluants de plus en plus nombreux, et qui progressent. Donc c'est un truc assez sérieux en fait. C'est pas juste « Qu'est-ce que je vais manger ce midi ?» La présence de certaines substances dans l'alimentation inquiète. Pour le coup, ça devrait tous nous inquiéter un petit peu, quoi. Bien que les doses soient généralement inférieures aux limites réglementaires. Nos conseils pour nous y retrouver. Et là, il y a un dossier qui est assez carré et qui nous dit qu'en fait, pour essayer de manger sain, vraiment sainement aujourd'hui, eh ben, c'est un peu compliqué. Merci, Poum. Entre les pesticides, les polluants éternels et les autres additifs utilisés par l'industrie, les raisons de s'inquiéter s'accumulent. On vous aide à y voir plus clair. Voilà. Et le dossier est assez carré, assez pédagogique également. Il y a même un petit encadré, c'est comment, parce que en fait, l'article fait le constat que c'est compliqué de manger sainement, de protéger sa santé, la santé de ses enfants. Et donc, du coup, le Parisien va jusqu'à donner des conseils pour limiter 95% des problèmes. Voilà. Donc, sujet qui me semble assez important et pas si léger qu'on ne croit au début quand on voit le titre « Peut-on encore bien manger ?» Voilà. Thème suivant, je suis très rapide, c'est le sommaire. Hein. C'est le pacte Dutreil. Alors, je suis pas un spécialiste du pacte Dutreil, mais c'est un truc, le pacte Dutreil, qui a été mis en place il y a quelques années pour favoriser la transmission d'entreprise, pour éviter au moment du décès d'un chef d'entreprise, d'un ou d'une chef d'entreprise, qu'en fait, les héritiers qui veulent reprendre cette entreprise n'aient pas à payer des droits de succession gigantesques qui mettent l'entreprise en danger. Ça, c'est la philosophie du pacte Dutreil. C'est une bonne philosophie. Hein, c'est pour éviter que les entreprises disparaissent, souffrent, voire soient rachetées, par exemple, par des capitaux étrangers. Voilà. Le problème, c'est qu'a priori, le système aurait été un peu détourné. Et il y a un rapport, alors là, qui est évoqué par l'Humanité, mais qui est un rapport de la Cour des comptes, voilà, qui estime que l'outil a été détourné de son projet et que ça profite surtout aux familles les plus riches. Bon, évidemment, sous la plume de l'Humanité, ça devient le pacte Dutreil, un gouffre fiscal au service des milliardaires. La Cour des comptes doit rendre public aujourd'hui, on est vraiment sur l'actu, un rapport très attendu qui relativise en fait l'efficacité économique de cet abattement sur la transmission d'entreprise. Voilà. Alors évidemment, ça rigole dans le chat. Comment ça? Les milliardaires détournent une aide qui vise à protéger les petites entreprises? Je suis choqué. Bah, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient de la Cour des comptes, qui n'est pas vraiment une officine de gauchiste, quoi. On va pas dire détourner, on va dire optimiser à l'extrême. C'est pas fou, Alex. Parce qu'a priori, c'est légal. La question, c'est est-ce que c'est bien moral? Et surtout, on va oublier la notion de moralité en économie, c'est un peu compliqué. Mais surtout, est-ce que c'était l'objectif de ce pacte Dutreil? Non. Le pacte Dutreil, c'était plutôt pour protéger les petites et moyennes entreprises, quoi. Pas forcément pour donner un nouvel avantage fiscal aux plus riches. Voilà. Donc cette optimisation-là, même si on reste hors du cadre de la moralité, on peut quand même estimer qu'elle ne répond pas à l'objectif du texte à l'origine. Voilà. Donc, un cadre qui profite surtout aux grandes fortunes avec un coût exorbitant pour les finances publiques. Et donc pour vous et pour nous, quoi. Donc la question, c'est est-ce que c'est à la collectivité de payer pour que certains ultra profitent de ce système pour réduire les successions sur la transmission d'entreprise. Voilà, c'est ça le débat. Voilà. Donc on lira ça dans l'Humanité ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants souvent sur mes lives, et ça me fait plaisir parce que c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup de respect, de considération, n'en déplaise à ceux qui ne respectent pas ce métier. Et si vous ne respectez pas les enseignants, c'est qu'il y a vraiment un truc qui foire dans notre société, quoi. Et là, on a un article un peu volontairement provoquant dans Les Échos qui se demande si demain on n'aura pas des écoles sans profs. Alors là, putain, j'ai découvert ça hier soir. C'est quoi cet article? L'éducation nationale traverse une crise sans précédent, ça c'est vrai, qui entame la motivation des enseignants les plus engagés, alors que se profile une vague massive de départ à la retraite. Et la question que posent Les Échos de façon volontairement provocante, c'est est-ce que des IA peuvent prendre le relais? Voilà. Donc, évidemment, on est qu'au tout début de cette réflexion, mais cette réflexion, elle pose des questions sur notre rapport à l'éducation, sur notre rapport au corps enseignant, sur notre rapport à l'éducation. Et donc, au-delà de cette question un peu provocante, est-ce que les profs vont être remplacés par des IA? Il y a une réflexion que je trouve vraiment, vraiment cool, qu'on aura ensemble, quoi. Voilà. Et puis, pour finir en beauté, juste après s'être demandé si les IA vont remplacer les profs, voilà. Dernière question, dans La Croix cette fois. La Croix, c'est un journal qui s'interroge beaucoup sur le fond. La Croix, c'est un journal qui aime bien un peu les questions philo, tout ça. J'aime bien La Croix. Et qui se demande si l'IA n'est pas en train de nous rendre bêtes. C'est une question, hein. Pas taper, hein. Ne vous fâchez pas. Le système d'intelligence artificielle générative, ChatGPT, lancé il y a tout juste 3 ans, approche du milliard d'utilisateurs. Donc c'est devenu un outil extrêmement utilisé. Merci Itadori-sama. Ces machines se voient souvent prêter à tort des capacités mentales et intellectuelles. Mais que font-elles aux nôtres? Il y a Olinor qui dit « Je étais déjà bête avant l'IA ». Merci Ours des Cieux, j'avais pas vu. Merci pour le 8e mois. Merci Rick Le Cool 23. Merci pour le 9e mois. Est-ce que l'IA, est-ce que l'utilisation fréquente, systématique de l'IA peut nous rendre entre guillemets paresseux au niveau de l'intelligence, quoi. Voilà. Donc on se penchera là-dessus. C'est une question, hein. Pas taper. Hein. Arrêtez de vous fâcher sur tout, les gars. Vous allez vous faire des nœuds au ventre. Hein. Et les gens qui sont en colère permanente là. Arrêtez de vous fâcher sur tout là. Vous allez vous faire des maladies. Hein. Essayez d'être chill. Salut Zincus. Coucou Samuel, je peux savoir par quel site ou lien tu passes pour avoir accès à tous ces journaux? Bah, je le fais à l'ancienne, c'est-à-dire que je suis abonné à tous ces journaux, moi. Je suis abonné à tous ces journaux, un par un. Je suis abonné au Monde, à La Croix, à l'UMA, au FI, etc. T'as compris? Alors, tu peux faire autrement. Il y a des plateformes d'abonnement que je trouve d'un emploi un peu moins intéressant pour moi, parce que c'est plus compliqué. Les journaux tombent plus tard, enfin, bref. Il n'y a pas tous les journaux qui m'intéressent, mais il y a des bouquets d'abonnements, il y a des choses. Après, moi, je préfère m'abonner directement aux journaux parce que d'abord, je les ai plus tôt. Je les ai très tard le soir, en fait, ce qui me permet de les lire le soir. Et puis, comme moi, je mets en avant cette presse que je trouve de qualité. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une source d'information qui est plus intéressante que d'autres médias. C'est aussi une façon de soutenir cette presse en m'abonnant directement à ces journaux. Voilà. Donc je ne peux pas te donner de site ou de lien, puisqu'en fait je suis abonné à chacun de ces journaux. Voilà. Allez, je réponds à quelques-unes de vos questions. Et tu as le droit de nous diffuser ça malgré le côté payant? Ouais, ça ne paye. C'est ce qu'on appelle le droit de citation, en fait. C'est dans la revue de presse, qui est un exercice qui existe depuis la nuit des temps, que je n'ai pas inventé. Hein. La revue de presse est faite en radio, en télé depuis très longtemps. La revue de presse, c'est quoi? C'est citer des bouts d'articles. D'ailleurs, en fait, de prendre la presse du jour, de choisir quelques articles dans les journaux, tu vois. Je ne lis pas intégralement Le Parisien, ni intégralement Le Monde, ni intégralement Libération, t'as compris. Je choisis un ou deux articles dans chaque journal qui m'intéresse, et puis dans cet article, je vais en lire une partie pour vous montrer un petit peu de quoi parlent les journaux. Ça, c'est la revue de presse. Par exemple, si je faisais autre chose, si je prenais Le Parisien, là, je suis sur Le Parisien, et tous les matins, je lisais Le Parisien intégralement, de la première à la dernière page. Ça, ce serait pas une revue de presse. Ça, ce serait un beau gros pillage de contenu. Et là, les journalistes du Parisien pourraient me dire, ah, t'es gentil, toi, tu fais du contenu avec notre taf, quoi. Ça, ce serait problématique. Mais citer plein de petits bouts de journaux comme ça pour montrer de quoi parlent les journaux, et finalement faire la publicité de ces journaux, parce que je trouve que c'est de très bons médias, Ça, c'est un truc qui est autorisé dans le cadre du droit à la citation, quoi. Voilà, c'est un vieil exercice, la revue de presse, je n'ai rien inventé. Voilà. On y va? De rien, ça ne paye de rien. Go? Vous êtes prêts? Aaron Deal, prêt? Ok, on y va pour le premier sujet? Allez, go. Alors, on est à 51 minutes et on part sur l'Ukraine. Alors, propriété... non, c'est pas ça. Hop, bougez pas, je vous mets ça bien. Interagir! L'Ukraine et le Rafale. Regardez comme c'est beau. Alors, 51 minutes, c'est pour... c'est le time code, c'est pour... que les gens s'y retrouvent après. Et TikTok, je vous mets la petite flèche aussi, comme ça, amis TikTok, quand il y a des gens qui vont nous rejoindre et vous dire, mais où est-ce qu'on en est dans sa revue de presse, vous pourrez dire, bah, regarde la petite flèche. Voilà. Et là, il est en train de parler de l'Ukraine. Le vieux schnock, là. Le vieux sénile. Hop, l'Ukraine et les rafales. On va commencer par ça. Hein, puisque c'est la dernière actu. Un accord historique. C'est vous qui m'en avez parlé d'ailleurs hier matin, ça. Ah, Sam, t'as vu l'accord entre la France et l'Ukraine sur les rafales? Parce que je crois que le président Zelensky était en visite hier à Paris, c'est ça? Hein? Reçu à l'Elysée ce lundi, ouais, c'est ça. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé l'acquisition de 100 avions de combat rafales. Voilà. Reste à les financer et à les fabriquer. Voilà. Donc l'annonce, elle est claire, mais il y a beaucoup de questions, on va le voir, sur cet accord. Zelensky a qualifié d'accord historique la déclaration d'intention. Ouais, donc c'est une déclaration d'intention, c'est pas un chèque. Portant sur l'achat futur d'une centaine d'avions Rafale, signé ce lundi avec Emmanuel Macron. Un joli cadeau pour sa 9e visite à Paris depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Un accord qui s'inscrit dans un autre espace de temps a abondé le président français, celui de la régénération de l'armée ukrainienne dans l'avenir. Les rafales qui va les payer. Mais attendez, putain, les... arrêtez, on est... Ah, cette impatience... on a l'impression que la capacité de concentration d'aujourd'hui de chacun d'entre nous à l'ère des réseaux sociaux, c'est de l'ordre de 5 secondes. La presse écrite, c'est l'inverse. Lire un journal, un seul journal, si tu le lis sérieusement, ça va te prendre 3 à 4 heures. Thierry, tu peux pas attendre la fin de l'article? T'as une page à lire, là. Il y a Thierry Bouchet, 728, qui écrit « Les rafales qui va payer ». Putain, mais on est capable aujourd'hui d'une attention au-delà des 2 secondes? Lisons l'article. Peut-être qu'il y a la réponse. C'est fou, ça. On a vraiment un problème. Hein. On a vraiment un problème. Hein. On n'y arrive plus. Hein. T'as littéralement l'article sous les yeux. Attends, putain, Thierry. Bordel. Donc, Zelensky qualifie ce truc d'historique. Joli cadeau pour sa 9e visite à Paris depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Un accord qui s'inscrit dans un autre espace de temps a abondé le président français, celui de la régénération de l'armée ukrainienne dans l'avenir. De fait, le président français, qui copilote avec le Premier ministre britannique la coalition des volontaires de 35 pays alliés de l'Ukraine, et a présenté à son hôte le quartier général flambant neuf de la force multinationale Ukraine au Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine, n'a eu cesse de répéter que la meilleure garantie contre une nouvelle incursion russe reposera en premier lieu, à l'avenir, à supposer que la paix soit instaurée, voilà, bah une fois signé un hypothétique accord de paix avec Moscou, sur un renforcement durable de l'armée ukrainienne. On entend déjà que ces avions, c'est pas pour tout de suite. C'est pour plus tard, c'est pour prévenir une nouvelle invasion russe, à supposer qu'une paix soit installée. Vous voyez ? Donc déjà, on a un élément de réponse, c'est pas pour tout de suite. L'annonce du deal, officialisé après une visite des deux dirigeants sur la base aérienne de Villacoublay près de Paris, a été une véritable surprise. A priori, elle n'était pas annoncée, cette commande. Cette commande avec des gros guillemets. Hein. Si des rumeurs de négociations couraient, notamment depuis la livraison à l'Ukraine de Mirage 2000 début 2025, elles étaient systématiquement démenties. L'acquisition des Rafales, avec leur système d'armes et équipements électroniques au standard le plus moderne du chasseur multirôle d'assaut, portera sur 10 ans. Celle des autres matériels contenus dans la déclaration, système de défense antiaérienne, bombes propulsées, etc., devrait s'étaler entre 2026 et les 3 années à venir. Il n'y a pas que des rafales. Okay. Annonce considérable, donc. Sur le papier. Sur le papier. Mais il faut nuancer sa dimension historique, nous explique le Parisien. Vous voyez, parfois, il faut juste attendre un petit peu, quelques lignes, avant de vous fâcher tout seul. D'abord parce que le président ukrainien a déjà signé un accord similaire d'intention lors de sa visite en Suède, il y a un mois, portant sur l'achat de 100 à 150 chasseurs-bombardiers Gripen. Voilà. Du constructeur suédois Saab. De Saab, il faisait des voitures à une époque. Mais à l'origine, c'est un constructeur aéronautique, je crois. Les premiers exemplaires devraient être livrés dès 2026. Donc déjà, il y a une commande côté Suède. Ensuite, parce qu'une lettre d'intention, c'est ça qui a été signé, c'est pas un contrat en tant que tel, nous explique le Parisien. Beaucoup d'ailleurs de ces lettres d'intention n'aboutissent pas, ou pas sous sa forme initiale. Ainsi, de nombreuses interrogations planent sur cette annonce, à commencer par les délais des premières livraisons. Certains ont vu peut-être vite fait 100 avions et ont imaginé qu'on allait livrer 100 avions demain à l'Ukraine, mais pas du tout. Dassault actuellement ne fabrique que 3 rafales par mois. 3 rafales par mois. Et les commandes en cours dépassent déjà les 200 exemplaires. Vous voyez bien que les 100 rafales français pour l'Ukraine, ils ne sont pas livrés, ils ne sont même pas fabriqués. On ne sait même pas si un jour ils vont être livrés. Voilà. Il suffit d'attendre un petit peu. Et vous avez les infos dans l'article. Surtout, c'est Thierry tout à l'heure qui se mettait en colère là. Oui, mais qui va payer, je sais pas quoi. Mais voilà, la réponse est dans l'article, il faut juste attendre. Ou acheter le Parisien. Comment seront financés les appareils qui ne sont pas offerts? Contrairement aux Mirage retirés du service actif qui ont été a priori offerts à l'Ukraine. Dont le coût unitaire s'échelonne entre 80 millions d'euros. L'avion brut et 200 millions l'appareil si tu rajoutes l'armement, le système électronique, etc. Donc le Parisien se pose la question. Car l'Ukraine reste un pays confronté à une guerre épuisante humainement et financièrement, dont nul ne peut prédire la fin. Ceux qui savent dans le chat quand va s'arrêter cette guerre, bravo à vous. Hein ? L'envahisseur Vladimir Poutine ne montrant aucune intention de négocier et voyant son armée progresser, même lentement, sur le terrain. Donc le Parisien pose la question. Hein ? Qui va payer, quoi ? Lors d'une conférence de presse conjointe avec Zelensky à l'Elysée, Macron a esquissé des pistes. Évoquant le précédent de la pandémie de Covid-19, il a relancé l'hypothèse d'un endettement commun européen pour payer ses appareils, voilà, auquel l'Allemagne rechigne. Autre possibilité, un mécanisme de prêt fondé sur les 140 milliards d'euros d'avoirs russes. Ce serait l'argent russe qui paierait les appareils pour l'Ukraine. C'est pas mal ça. 140 milliards d'euros d'avoirs russes gelés en Europe, étudiés par les 27, mais que certains membres rejettent, craignant qu'une saisie détourne à l'avenir de futurs investisseurs, par exemple les pays du Golfe. L'argument à Kiev, comme dans la plupart des capitales de l'UE, c'est que ces avoirs soutiendraient le premier pas pour la reconstruction de l'Ukraine que la Russie devra payer. De manière plus générale, dans la réorganisation de la défense européenne imposée par la menace russe et le désengagement américain, l'important est que les milliards de l'UE, qu'ils servent à aider l'Ukraine ou à renforcer les armées nationales, aillent en priorité à des industriels de défense européens et ne soient pas utilisés pour acheter du matériel américain, comme c'est encore souvent le cas. Parce qu'il y a un monde où l'argent européen, il pourrait servir à acheter, c'est déjà le cas, de l'armement américain pour résister à l'armée russe. Donc à un moment, l'article dit autant que ça parte à l'industrie de défense européenne. Quoi. À cet égard, nous dit le Parisien, c'est la conclusion de l'article, les lettres d'intention de Kiev avec la Suède et la France montrent la voie à suivre. Donc le Parisien nous dit de façon assez claire ce matin que oui, il y a un accord, il y a une lettre d'intention qui a été signée, mais il est beaucoup trop tôt pour dire si ces rafales seront construites, vendu, à quel prix et payé par qui. L'actualité, parfois, c'est beaucoup de questions et pas forcément que des réponses. Pas mal, non? Ça, c'est clair. Des questions sur le... Après, on va parler de l'Ukraine au sens large, avec un dossier du Monde, mais sur ce dossier des rafales. C'est pas la Belgique qui a acheté américain récemment? Je crois qu'il y a une histoire comme ça, Grudy, ouais. Salut Sarah. Bah. Merci, merci Walter. Je vous lis, je vous lis. Le petit Camus dit la lettre d'intention pourra être déchirée dès 2027 selon le prochain président au pouvoir. Bien sûr. Évidemment, le petit Camus. Merci The Fisto. Je vais dire The Fisto plutôt parce que The Fist, ça fait bizarre. Ok, là on va aller plus loin. Là on va aller sur la photographie du conflit ukrainien à l'instant T, là. Avancée russe, corruption, l'Ukraine affaiblie. De quoi s'agit-il? C'est la une du monde, c'est le plus gros dossier du monde. Oh oui, on est à 1h02, merci, j'avais oublié le TC. Hop, 1h02. Ça marche, incroyable. Ok. Et TikTok, je vous mets la petite flèche aussi, parce que vous la méritez, vous la méritez, vous la méritez, vous la méritez. Vous êtes où? Vous êtes là. C'est quoi cette histoire d'Ukraine affaiblie? Voilà. Fragilisée. Fragilisée par un vaste scandale de corruption et par la pression russe, le président ukrainien cherche le soutien actuellement d'Athènes, de Paris et de Madrid. C'est quoi cette histoire de corruption? On va le lire dans le détail dans Le Monde. Plusieurs proches du chef de l'État sont accusés d'avoir détourné environ 100 millions de dollars du secteur énergétique ukrainien. Des révélations qui ulcèrent une population épuisée et meurtri par la guerre et les bombardements incessants des sites de production énergétique sur le front militaire. La situation militaire est aussi préoccupante. La chute de la ville de Pokrovsk semble imminente. Affaiblit l'Ukraine au seuil d'un hiver critique, c'est le plus gros dossier du monde ce matin. Lisons et voyons de quoi il s'agit. À l'heure où le président ukrainien et son pays traversent une passe des plus difficiles, Volodymyr Zelensky cherche une forme de réassurance auprès de ses soutiens européens, d'où la visite hier à Paris. Après un passage en Grèce dimanche, une visite prévue à Madrid mardi, il était reçu par le président Macron hier. On en a parlé. Les deux dirigeants devaient se retrouver sur la base aérienne de Villacoublay, donc là c'est les infos dont on a parlé sur le Rafale. Blablabla, lettre d'acquisition, qui les rafales, blablabla. Voilà. Après l'échec des tentatives américaines de médiation ces dernières semaines, c'est vrai que Trump a tenté ces dernières semaines de mettre fin à la guerre en Ukraine. Voilà. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Après l'échec des tentatives américaines de médiation ces dernières semaines, merci à un jus de coco, pourquoi pas. Un climat de grande incertitude pèse sur le chef de l'État ukrainien. Sur le front, l'armée russe continue de pousser son avantage dans l'est du pays face à des forces ukrainiennes souffrant d'un manque cruel de soldats. La ville de Pokrovsk est sur le point de tomber. Surtout, la visite de Zelensky survient alors que le gouvernement est secoué par le plus important scandale de corruption de sa présidence. Plusieurs officiels et proches du chef de l'État sont accusés par les enquêteurs anticorruption ukrainiens d'avoir détourné environ 100 millions de dollars, environ 86 millions d'euros du secteur énergétique ukrainien. Notons que ce sont des enquêteurs ukrainiens qui ont dénoncé l'affaire. Le scandale a ulcéré une population qui est épuisée et meurtrie par bientôt 4 années de guerre. Voilà. L'affaire nous a tous beaucoup choqués. Là, un expert ukrainien en relations internationales qui souhaite garder l'anonymat. Les premières réactions de Zelensky ont été acceptées, mais l'affaire est encore loin d'être terminée. Pour l'instant, nous avons plus de questions que de réponses. Voilà. Depuis que le scandale a éclaté, le président ukrainien déploie d'importants efforts pour s'en tenir à l'écart de cette affaire, tant aux yeux de sa population que de la communauté internationale. Deux ministres, énergie et justice, ont démissionné. 5 personnes ont été arrêtées. Mais l'homme d'affaires Timur Mindic, associé et proche de Zelensky, considéré comme un personnage clé dans cette affaire, a quitté précipitamment le pays. Il serait en Israël, selon la presse ukrainienne. Zelensky a promis une refonte de l'ensemble des entreprises publiques du secteur énergétique. Selon lui, un audit complet des activités financières de ces entreprises va être mené, ainsi que le renouvellement de leurs dirigeants et des représentants de l'État qui y siègent. Toute combine découverte dans ces entreprises doit faire l'objet d'une réponse rapide et juste, dit-il. Les difficultés qui s'accumulent pour l'administration Zelensky peuvent-elles miner la confiance de ses soutiens? C'est l'une des questions. En particulier en Europe, qui depuis le retour au pouvoir de Trump ont pris le relais des États-Unis pour porter l'effort de guerre de l'Ukraine. Si les problèmes de corruption prennent une ampleur et une substance supplémentaire, je crains que cela n'ait un effet politiquement extrêmement dommageable. Salut le Gecko. Ne serait-ce que parce que les formations populistes vont expliquer qu'il n'y a pas de raison de soutenir ces gens-là. L'une des questions sur le conflit ukrainien, c'est quel est le degré de soutien des populations occidentales et notamment européennes à l'Ukraine. Et ce genre de scandale, ces dizaines de millions d'euros, là, presque 100 millions de dollars détournés par des proches de Zelensky, ça peut nourrir aussi, vous savez, un discours dans nos pays en mode pourquoi soutenir ces gens-là. Ce qui serait, vous serez d'accord avec moi, confondre les escrocs avec le peuple ukrainien. Je pense qu'on sera d'accord. C'est ce que dit François Hesburgh, un chercheur. Les révélations risquent de donner des arguments aux dirigeants européens qui plaident pour un arrêt de la guerre et ou contre une adhésion de l'Ukraine à l'UE. Voilà. La Hongrie, par exemple, bloque les négociations pour que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. D'un côté, l'Ukraine a montré qu'elle a une société mature avec des organismes anticorruption indépendants et que personne n'est au-dessus des lois. Remarquons que, par exemple, ce scandale, il est révélé par des enquêteurs ukrainiens. Hein ? C'est pas une enquête externe à l'Ukraine qui dénonce ce détournement de fonds. Ce sont des enquêteurs ukrainiens, hein, qui l'ont mis à jour. Hein. De l'autre, il est évident que ce scandale a ébranlé la confiance de la population ukrainienne et de nos alliés envers le gouvernement. Désormais, tout l'enjeu est de rétablir cette confiance. Les autorités françaises promettent de poursuivre leur appui militaire en dépit de leur faible marge de manœuvre budgétaire. Il n'y a plus trop de sous en France, vous savez, en ce moment. Mais les scandales en cours devaient être abordés lors de la visite hier à Paris de Zelensky. Le chancelier allemand Friedrich Merz, principal soutien continental de Kiev, a été l'un des premiers à mettre la pression sur le gouvernement ukrainien. Dans une conversation téléphonique avec Zelensky jeudi dernier, il a souligné que le gouvernement allemand attendait de l'Ukraine qu'elle avance avec énergie dans la lutte contre la corruption, ainsi que d'autres réformes, en particulier dans le domaine de l'état de droit. Le dirigeant allemand a exhorté le président ukrainien à veiller à ce que les jeunes hommes ukrainiens ne viennent pas en nombre croissant en Allemagne, mais qu'ils accomplissent leurs devoirs dans leur pays. Salut Loulou. Il y a Thierry, mon ami Thierry, là, avec qui je me suis fâché tout à l'heure, qui est toujours avec nous, et merci à toi, qui dit « Quand on écoute les informations au poste radio ou à la télévision, on a de quoi attraper le cafard. » Oui. Attention, je le dis souvent, au côté anxiogène de l'actualité. L'actualité, c'est souligner ce qui ne va pas dans ce qui ne va pas. On pourrait faire un journal des bonnes nouvelles tous les matins, mais ça ne nous ferait pas beaucoup avancer. L'actualité, c'est nous dire ce qui ne va pas pour que ça attire notre attention sur les choses qu'il faudrait changer, justement. Voilà. Ce qui est intéressant dans la marche de l'humanité, c'est qu'on fait plein de bêtises, mais on est en capacité de se remettre en question et de ne pas répéter les erreurs, enfin, en tout cas d'essayer de les corriger. Et donc, un des rôles des médias, mais c'est extrêmement anxiogène, c'est de vous dire tout ce qui ne va pas. Et quand vous consommez un média, radio, télé, internet, après, il y a différents degrés de qualité, cette litanie des mauvaises nouvelles, c'est extrêmement anxiogène. Et protégez-vous de ça, Thierry et les autres. Protégez-vous de votre consommation d'actualité. C'est-à-dire que être un citoyen informé, c'est bien. Être un citoyen éclairé, c'est bien. Vous tenir au courant de la marge du monde, de l'état de votre pays, c'est bien. Voilà. Déjà, vous intéresser à l'actualité, ça fait de vous un citoyen, même si on n'est pas d'accord. Hein. Ça fait de vous un citoyen qui s'intéresse au collectif. Mais la quantité d'informations à laquelle vous allez vous exposer, attention à cette quantité. Parce que ça peut vraiment être trop, quoi. Et bousculer un peu votre santé mentale. Franchement, les gens qui se tapent des heures de chaîne d'infos tous les jours, force à vous, quoi. Vous allez vous faire plus de mal que de bien, quoi. Donc informez-vous, bravo à vous, c'est formidable, mais attention aux doses que vous vous infligez, quoi. C'est là où j'aime bien, moi, lire un journal. Le journal, tu le prends quand tu veux. Je parle du journal papier, quoi, ou en PDF, quoi. Il ne s'impose pas à vous. Le journal, c'est un truc que vous prenez et que vous lisez et que vous pouvez poser. Mais vous mettre devant un JT ou écouter la radio ou de vous mettre devant une chaîne d'infos en continu ou même scroller, vous êtes un peu passif par rapport au contenu qu'on va vous imposer. Finalement, vous ne choisissez pas l'ordre des nouvelles, des news. Et elle s'impose un peu à vous. Voilà. J'aime bien le côté actif du journal que vous choisissez de consommer, voilà, et vous allez lire tel article et pas tel article, vous triez un petit peu, quoi. Donc bravo à vous qui vous informez et qui vous intéressez à l'actu, mais attention aux doses que vous vous imposez, que comme Thierry le disait, parfois ça fout bien le cafard, quoi. Je ferme la parenthèse. Poursuivons sur l'Ukraine. Côté financier, le scandale de corruption dont on parle là ce matin, et dont il est important de parler d'ailleurs, ne pouvait pas plus mal tomber alors que l'Ukraine tente de convaincre ses alliés d'accepter de lui accorder un prêt de 140 milliards d'euros gagé sur les avoirs russes gelés par les Européens depuis le début de la guerre, dont on parlait tout à l'heure. Le pays a également désespérément besoin d'aide pour assurer le fonctionnement de son système énergétique, massivement bombardé par les forces russes. Les frappes menées contre les centrales électriques et les réseaux de distribution imposent déjà de longues coupures de courant à la population ukrainienne. Hein, on arrive dans l'hiver. Dans de nombreuses villes du pays, le ronronnement des générateurs s'entend à toute heure du jour et de la nuit à Kiev, à Kharkiv, à Odessa. Voilà. L'Ukraine craint donc un hiver dans le froid, un nouvel hiver dans le froid, alors que les températures peuvent atteindre les moins 20 degrés. Tandis que par ses frappes incessantes sur ses villes, sur les villes et sur les infrastructures énergétiques, Poutine ne relâche pas la pression sur les civils ukrainiens, la situation militaire sur le front est elle aussi préoccupante. Elle s'est même dégradée sur plusieurs sections. La conurbation Pokrovsk-Minorad, 100 000 habitants avant l'invasion russe, est presque encerclée, sa chute semble inévitable. Jusqu'ici, l'armée ukrainienne n'a jamais pu renverser une situation aussi difficile. Elle ne dispose aujourd'hui d'aucune réserve. Cette agglomération possède une grande valeur opérationnelle pour l'armée russe en offrant un abri à ses troupes pendant l'hiver, voilà, et un tremplin pour une offensive ultérieure. Nœud ferroviaire majeur, Pokrovsk deviendra un centre logistique et une place forte pour l'armée russe. La situation s'est rapidement aggravée depuis fin octobre, la logistique ukrainienne étant prise en étau. Les forces russes maintiennent l'unique route de ravitaillement au nord de la ville sous le feu constant de leurs drones FPV, rendant impossible la circulation de véhicules. Les évacuations de blessés sont devenues extrêmement dangereuses. Selon des militaires sur place, le ravitaillement se fait maintenant essentiellement par drones gros porteurs. Dans le même temps, des centaines de soldats de l'infanterie russe ont pénétré dans la ville par petits groupes, se faufilant entre les positions ukrainiennes. Cette tactique d'encerclement et d'infiltration a donné des résultats relativement rapides comparés aux assauts frontaux de l'armée russe sur Pokrov depuis un an et demi. Changement de stratégie de l'armée russe qui semble fonctionner. Avec cette chute imminente de cette ville, merci Spotterfou. Oh, on a pris l'habitude maintenant. Seule ville importante à changer de main depuis un an, parce que le front russe avance, enfin au profit des Russes, mais quand même très lentement. Et la récente manœuvre d'encerclement du bastion ukrainien de Ulyapol, qui bloquait depuis 2023, deux ans, la poussée russe, intéressant ce lapsus, j'ai pensé aux poupées gigognes, vous savez. La poussée russe vers Zaporizhzhia, Kiev fait aujourd'hui face à un double risque, perdre un nombre important de soldats expérimentés si leur retraite s'effectue sous le feu des drones russes et apporter des arguments à ceux qui, à l'étranger, clament que les dés sont jetés et considèrent qu'aider l'Ukraine ne sert plus à rien. Waouh. Voilà où on en est actuellement en Russie. Je vous lis. Oh, pardon. Je vous lis, je vous lis. Salut Super Gugus. J'allais dire, n'hésitez pas à échanger entre vous. Il y a Boomerang qui a posé deux fois cette question. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Pourquoi l'UE serait concernée? Je vois que vous avez commencé à lui répondre. Je me pose la question, de dit Alex, inversement, que va faire l'Europe si la Russie gagne la guerre? Ça discute bien ici, me dit Olinox. Oui, je sais, j'ai vu. Merci à Oshek pour le Prime. Merci beaucoup. Si la Russie gagne la guerre, estime Spotter fou. Salut Spotter fou. Elle n'ira déjà pas en Europe. Alors c'est la crainte du coup de certains pays qui ont des frontières avec la Russie d'être ceux d'après quoi. Je vous lis. Falcon de Mars, c'est son premier message dans le chat et ça part très très fort. Le Monde, donc le journal Le Monde, là qu'on vient de dire, le pire média de l'univers. J'aime assez. On est dans la retenue. Pardon. On est dans. Une analyse un petit peu, comment dire, prudente, je dirais subtile aussi. Voilà. Alors, les médias que je lis sont loin d'être exempts de tout reproche. On peut tous critiquer leur ligne éditoriale, s'interroger sur leur propriété capitalistique, sur leur prise de position passée. Mais je ne m'attendais pas à celle-ci quand même. Là, on est vraiment dans le monde des super-héros, quoi. Voilà. C'est le pire média de l'univers. All over the world. Merci beaucoup pour cette analyse. Pour un premier message, c'est pas mal. Merci Yaldrin pour le prêt. Vous allez me faire vieillir à une vitesse, bordel. Vous allez me faire vieillir. Quand je pense que j'ai 22 ans. Quand je pense que j'ai 22 ans. Regardez ce que vous avez fait de moi. Regardez ce que vous avez fait de moi en 5 ans de revue de presse sur Twitch. Je vous lis. Oui, c'est Thanos, oui. Oui, c'est le monde. Tu aurais pu écrire Le Monde, c'est Thanos, ça aurait été plus drôle en vrai. Et oui, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans et regardez ce que la consommation quotidienne. C'est pour ça, protégez-vous de l'actualité. Hein. Protégez-vous de l'actualité. Regardez ce que l'actualité a fait de moi. Regardez ce que 5 ans de revue de presse sur Twitch a fait de moi. J'ai 22 ans. Regardez ma tête. Hein. Avant de commencer tout ça, j'avais plein de cheveux. Tout noir. Voilà. Et je n'avais pas de rides, rien. J'étais lisse comme un galet. Voilà. Et regardez où j'en suis. Mais ouais. Donc, protégez-vous de l'actualité. Hein. Comment ça, 22 ans en année de chien? Hein, quoi? Hein? Quoi? Hein? Quoi? Comment ça, en année chien? Genre x7, c'est ça que tu veux dire? Hein? Let's go! Comment ça, 22 ans hors taxe? Ouais. Ouais. 22 ans et 3 enfants, ça fatigue aussi, ne mets pas tout sur les news. Mais j'ai que 2 enfants. Zinedine Schumacher écrit 22 ans et 3 enfants, ça fatigue aussi. Mais je n'ai que 2 enfants. Zinedine Schumacher, tu serais donc mon fils caché? Je serais ton père? Qui serait... Mais que m'apprend-on? Mardi 18 novembre 2025, 10h25. J'ai un troisième enfant, c'est toi? Je n'ai pas de chat. C'est toi? C'est toi, mon fils? Incroyable. Allez. Alors, ça ressemble à une information plus légère et ça n'en est pas une. Hein? Sérieusement, j'ai changé mes plans de carrière pour devenir journaliste car trop peur de me faire manger par l'actualité. C'est grâce à toi, Samuel, que je suis réconcilié avec l'actu. Merci, Clemenceau, ça fait plaisir. Alors, ce sujet qui arrive là, sur la nourriture... Il a l'air plus léger et en fait, il ne l'est pas. Parce qu'on va dire, on passe de l'Ukraine à qu'est-ce qu'on va bouffer ce midi. Non, non. Non, non, c'est assez sérieux. Interagir. Let's go. On est sur 1h23 de revue de presse. Donc, on est là. Oh, c'est magnifique. Hop, hop, hop. 1h23. Regardez comme c'est beau. Voilà. C'est magnifique, hein. Tac, tac. Hop, oh, c'est magnifique, c'est magnifique ce qui se passe avec cette revue de presse là. Reste sommaire. TikTok, je vous la mets. La flèche. Elle est où? Elle est là. Il y a le lait qui vient d'écrire. C'est encore les Français qui vont payer. On n'a rien dit encore. Il est déjà en colère. C'est encore les Français qui vont payer. C'est bien parce que ça, c'est un truc que tu peux mettre sur toutes les actus. Sur toutes les actus tout le temps. À un moment, tu peux écrire cette phrase. C'est encore les Français qui vont payer. Je sais pas de quoi tu parles, on va parler de rien pour l'instant. Bravo. Oh, arrêtez, vous êtes cons, hein. Oh. Ouf. Oh, vous allez me faire crever, hein, vos conneries, là. Bon. C'est quoi cette histoire? Non, en vrai c'est inquiétant, ça. Voilà. Est-ce qu'on peut encore bien manger? La présence de certaines substances dans l'alimentation inquiète, bien que les doses soient généralement inférieures aux limites réglementaires, nous conseille pour nous y retrouver. C'est à la fois un dossier dans Le Parisien qui nous inquiète et qui nous rassure. Voilà. C'est quoi ça? Il y a un édito qui a l'air à peu près ok, qu'on va lire, qui est écrit par Tanguy de l'Espinet. Merci Lucien Ducasse, c'était cool avec DFG. Merci Yaldrin, merci à tous les deux. Du brouillard dans le frigo. On a un peu du brouillard dans le frigo. En fait, on ne sait plus bien ce qu'on mange, et on ne sait plus bien si ce qu'on mange ne contribue pas à altérer notre santé. Ouais. Faudra-t-il bientôt un diplôme de chimiste pour remplir son chariot sans risquer sa peau? C'est pas mal, ça. Chaque semaine, une nouvelle alerte concernant des molécules indésirables dans nos assiettes vient alimenter un très mauvais feuilleton qui érode la confiance du public. Vivons-nous réellement dans un environnement alimentaire massivement empoisonné? Attention au raccourci, n'oublions jamais que c'est la dose qui fait le poison et que souvent seule l'accumulation mérite surveillance. Pour autant, pas question de se laisser endormir dans une sorte de relativisme sanitaire. Si on fait le compte des traces que certains intrants chimiques ou additifs alimentaires laissent derrière eux, l'addition commence à être salée. Le Parisien nous dit, l'édito, c'est l'opinion d'un journaliste Taser, exactement, t'as tout compris. Pour que l'on ne trinque pas pour des pratiques industrielles longtemps et parfois encore approximatives, chacun a une partition à tenir. Les ONG, qui ont souvent un coup d'avance et dont la vigilance force l'évolution des normes, doivent éviter à tout prix les effets de manche contre-productifs. Crier au loup trop vite peut coûter cher dans l'opinion. Les pouvoirs publics, soucieux de ne pas assommer de normes un secteur sous haute pression, doivent pouvoir imposer des limites protectrices basées sur la science et des contrôles efficaces. Les industriels, enfin et surtout, doivent comprendre une bonne fois pour toutes que la confiance se gagne au microscope, pas au marketing. Voilà. C'est à ce prix que le consommateur pourra faire des choix éclairés, que manger ne deviendra pas dans notre pays un acte de bravoure. Que dit le journaliste du Parisien ? On a tous des efforts à faire. Hein. Les médias, les ONG, l'État, les industriels, pour que les Français puissent faire confiance à leur assiette. Bon, déjà les Français se font plus confiance entre eux. Hein. On va essayer de garder confiance en notre assiette. Manger sain, c'est pas si simple. Manger sain, c'est pas si simple. Entre les pesticides, les polluants éternels et autres additifs utilisés par l'industrie, les raisons de s'inquiéter s'accumulent. On vous y aide à y voir plus clair. Et en vrai, le dossier du Parisien est plutôt bien fait. Dans les rayons de cet Intermarché du 20e arrondissement parisien, Alexandra, 38 ans, mère de deux petits de 5 et 8 ans, hein, on fait super attention à ce qu'on donne à manger à nos enfants, achète toujours, ou même toujours la même chose ou presque. Excusez-moi. Il est fou. Hein. Merci Sugar, merci de ta bienveillance. Excusez-moi, je lisais un historique. Est-ce un instant. Donc, la maman achète tous les jours ou presque la même chose pour ses enfants. Du lait bio. Pour ses enfants, des yaourts nature, bio, voilà. Du jambon sans nitrite, si j'en trouve pas, j'en prends pas. Et même si j'aimerais dire qu'il mange des légumes à tous les repas, la vérité c'est qu'il mange surtout des pâtes. Voilà. Mais cette maman s'inquiète, hein, elle est pas sûre d'elle, mais ça va les pâtes. Si on m'annonce que le blé est aussi pollué, je suis fichu, dit-elle. Peut-on encore trouver des aliments exempts de toute substance potentiellement nocive pour la santé alors qu'une succession d'alertes et d'affaires inquiète? Voilà. Bulldozer, il y a des pubs dans le stream. Non ! Il n'y a pas de pub dans le stream. J'ai enlevé 100% des pubs. Les seules pubs que vous pouvez vous taper, c'est les pubs de pré-roll. C'est la pub du début qu'on ne peut pas enlever, que Twitch vous impose quand vous changez de chaîne Twitch ou vous arrivez sur une chaîne Twitch. Je ne peux pas mettre moins de pubs qu'il y a de pubs sur cette chaîne. Je gagne ça avec la pub ici. Voilà. La pub, ça peut faire jusqu'à 50% des revenus sur une chaîne Twitch. J'ai tout viré. Quand tu changes de titre, ça lance une pub. Je ne change pas de titre. J'ai décidé de ne plus changer de titre. Parce que j'ai appris que ça lançait des pubs. Je ne peux pas enlever plus de pubs que... je suis à zéro. Si vous voyez des pubs, c'est Twitch qui vous les impose. Allez râler auprès de Twitch. Pas auprès de moi. Je gagne 0 euros avec la pub. Désolé les amis. Mais des pubs, c'est pas grave. Non, je trouve que ça abîme l'expérience de visionnage pour les gens. Voilà. On est en plein milieu d'un article, je vous dis un truc super important. On rigole et tout, et bim, vous prenez une pub. C'est pas cool. J'ai viré les pubs. Voilà. Sinon, quand t'as une pub et vraiment ça t'énerve, tu peux faire Alt F4 ou Ctrl Alt Sup. Voilà. Ou appuyer sur la petite diode lumineuse sur ton PC. Tu vas voir, ça supprime la pub aussi. Ah, plus de pub. Bon, après, ça provoque d'autres trucs, mais voilà. C'est fini. Donc, pardon, je reviens à la bouffe. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'inquiète parce qu'on voit régulièrement des nouvelles un peu inquiétantes en matière d'alimentation, quoi. Par exemple, aujourd'hui, le tribunal de Nanterre se prononce sur le sort des bouteilles de Perrier, dont l'association UFC Que Choisir a demandé le retrait de la vente. Conséquence des révélations sur leur traitement illégal pour en éliminer les polluants. Voilà. Il y a quelques semaines, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation alertait sur la présence partout des polluants éternels. Pardon, je ne sais pas. Est-ce qu'on dit les PFAS ou les PFAS? On dit les PFAS ou les PFAS? Comment on dit? Ah, on dit PFAS? Pourquoi PFAS? C'est de l'anglais? On dit les PAF? On dit les FAF? Oh non, arrêtez, arrêtez, ça repart, arrêtez. Ah, c'est de l'anglais? Ok, PFAS. Right. Vous saviez ça, vous? Incroyable. PFAS. C'est anglais, c'est anglais. Ok. Donc, les PFAS. Tout le monde sait qu'on dit les PFAS. Moi, je le savais, bien sûr. Voilà. Avant cela, Greenpeace avait révélé celle d'hexane, un dérivé du pétrole cancérigène, dans les huiles ou la margarine. Mais on ne peut plus rien manger, c'est incroyable. Pour François Veillerette, qui est le porte-parole de l'association Génération Future, il faut être lucide, il est impossible, écoutez cette phrase, pour le consommateur de supprimer son exposition à tous ces produits, on ne peut que la limiter. Mais de quoi parlons-nous? De quoi s'agit-il? Les substances montrées du doigt par les associations de consommateurs ou les ONG environnementales ne sont pas toutes de même nature. Camille Dorieuse, chargée de campagne au sein de l'ONG Foodwatch, précise qu'il y a d'une part les contaminants, dont la présence dans l'alimentation n'est pas intentionnelle, comme les pesticides, les métaux lourds, les PFAS. Tout le monde sait qu'on dit PFAS. Quelqu'un fait une blague dans le chat que j'ai envie de vous relever. Asmoth a écrit, à l'époque de Cro-Magnon, on appelait ça les bifas. Jeudi c'est beau. Jeudi c'est très beau. Jeudi c'est très très beau. Donc, pesticides, métaux lourds, les PFAS, tout le monde sait qu'on dit les PFAS. Est-ce que vous savez comment on disait au paléolithique? Vous savez comment? On disait les bifas. Une petite blague. Ils ne sont pas indiqués sur l'étiquette du produit que vous achetez. Quand vous achetez des petits pains au lait sympathiques, là où je sais pas quoi, c'est pas marqué attention, métaux lourds, pesticides et PFAS. Vous savez comment on disait les PFAS chez les hommes préhistoriques? Non, j'arrête. D'autre part, il y a les additifs autorisés. Oui, les bifaces, c'est les silex à deux faces, pardon. Parce que je crois que tout le monde n'a pas la ref. D'autre part, il y a les additifs autorisés et qui apparaissent dans la composition des produits, même si leur effet sur la santé est en question. Ok? Donc, il y a les contaminants, qui sont bien là, mais qui ne sont pas écrits dessus. Et il y a les additifs autorisés, mais sur lesquels on peut se poser des questions. Bon, moi, j'ai bien connu cette époque, les bifas, tout ça, donc c'est pour ça que j'en parle comme si ça allait de soi, mais je me rends compte qu'il y a des gens plus jeunes que le paléolithique ici, et qui n'ont pas forcément la ref, quoi. Il y a enfin ce qu'on appelle, c'est pas terminé, les auxiliaires technologiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dont l'hexane fait partie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les industriels ont le droit de les utiliser dans leur procédé de fabrication, mais ils ne doivent en principe pas contaminer les aliments. L'enquête de Greenpeace sur ce solvant a montré que des traces subsistaient dans du lait, du porc et de la viande de poulet. Voilà. Dans son dernier rapport d'évaluation des pesticides, l'Autorité européenne de sécurité des aliments annonce que 96% des échantillons alimentaires testés ne dépassent pas un niveau autorisé. Ça va ? Eh ? Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans l'actu. Dans son dernier rapport sur les pesticides, l'autorité européenne annonce que 96% des échantillons alimentaires testés ne dépassent pas les niveaux autorisés. Mais, merde, il y a un mais, l'exposition de l'individu se juge au global. Hein. La toxicité dépend du dosage, explique un professeur. Ingérer un peu de cadmium, c'est pas bon le cadmium, mais un peu de cadmium, c'est pas grave. Mais de façon répétée, elle est beaucoup plus. Un cancer qui survient à 45 ans rajoute de l'exposition à l'ensemble de ces substances à travers ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on touche. Il ne faut pas toucher n'importe quoi. Hein, ne touchez pas à tout comme ça, sans arrêt tout le temps, sans demander. Hein. À cela s'ajoute l'effet cocktail, fameux film avec Tom Cruise d'ailleurs. Les plus vieux s'en souviennent, la combinaison possible de toute cette chimie dont les scientifiques ne connaissent pas encore les effets sur la santé. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Ouais. sauf si l'autre est consentant. Oui, c'est pas faux. Par rapport à autre chose, le truc qu'on parlait d'avant. Mais comment en est-on arrivé là ? Est-ce que c'était mieux avant ? Ah 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 ! Hein ? Bah peut-être. Après-guerre, il a fallu un modèle de production alimentaire en France. Alors Bast, je vois que tu spammes cette question. Ta question est excellente. Et c'est une question qu'on évoque quasiment tous les matins. Mais je vais répondre à Bast parce qu'il vient d'arriver dans la commu. Et il va croire que je l'ignore. Bast s'est dit « Bonjour, selon toi, une issue favorable en Palestine est-elle possible ?» C'est l'une des questions essentielles qui se posent à notre époque, à notre civilisation. Et cette question, on l'évoque quasiment tous les jours ici, depuis 5 ans. Voilà. Mais ce matin, je n'ai pas d'article sur le sujet. Donc n'hésite pas à revenir régulièrement. Là, tu vois, il y a un sommaire aujourd'hui. Il y a le sommaire, il y a les actus du jour. Et c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Mais demain, il y aura sûrement du Proche-Orient. Et voilà, c'est quasiment tous les jours, mais pas ce matin. Voilà, donc n'hésite pas à revenir. Parce qu'il y a tellement de sujets dans l'actualité que je ne peux pas traiter tous les jours tous les sujets. Sinon, je passerai ma vie en live. Déjà que ma santé mentale est en train de partir en sucette, je n'y arriverai pas, quoi. Donc, est-ce que c'était mieux avant ? Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu un modèle de production pour produire davantage. Mais rapidement, la mission de nourrir le monde s'est un peu évaporée au profit de la rentabilité, explique le fondateur du collectif En Vérité. L'usage des pesticides et d'engrais, contenant par exemple du cadmium, s'est considérablement développé. Oscar, en vrai, ça fait pas mal de temps qu'on n'en a pas parlé. Ouais, ça doit faire 2 ou 3 jours, ouais. Oscar, tu dois pas venir souvent, mon chouri. C'est aussi durant la même période que l'industrie a mis au point les PFAS. Tout le monde sait qu'on dit les PFAS. Non. Est-ce que vous saviez comment on disait les PFAS au temps de la préhistoire ? Eh bien, on disait les bifas. Les bifas, que c'est un silex qui est poli des deux côtés. Je suis sûr que vous ne le saviez pas, ça. Non, c'est parce que... Excusez-moi. C'est aussi durant la même période que l'industrie a mis au point les bifas. Est-ce que vous... Excusez-moi. Des molécules indestructibles résistantes... C'est quoi les bifas ? Des molécules indestructibles résistantes à l'eau, au feu, au temps qui passe. Le temps qui passe. Pour les PFAS. Okay. Tant et si bien qu'on les retrouve aujourd'hui partout. Et 60 000 habitants de la région Grand Est ne peuvent plus utiliser l'eau de leur robinet en raison d'une teneur en PFAS trop élevée. Donc on en rigole. Hein, on le fait des blagues sur la préhistoire. Très bien. Aujourd'hui, vous avez 60 000 habitants de la région Grand Est qui ne peuvent plus boire l'eau du robinet. Il y a trop de PFAS. Il existe certes des réglementations européennes qui encadrent les limites maximales en contaminant les résidus de produits phytosanitaires ou encore l'emploi des substances comme les additifs ou les auxiliaires technologiques. Voilà. Donc il y a des règles quand même, des réglementations. Tous les opérateurs de la chaîne ont les obligations de moyens et de résultats pour s'y conformer. Voilà. Pour autant, en matière d'alimentation, les alertes émises par les ONG, associations de consommateurs, précèdent bien souvent le durcissement de la réglementation. Peut-être que la réglementation n'est pas à la hauteur de nos inquiétudes, voire des menaces qui pèsent sur notre santé. Merci Cyril pour le 44e mois d'abonnement. Merci Lucien Ducasse. Par exemple, il y a quelques mois, vous avez 2 ONG qui ont dénoncé les teneurs excessives en mercure dans le thon en conserve. Mais les relevés ont été contestés par la profession des conserveurs de poissons, qui assurent, eux, respecter les seuils en vigueur. Au milieu, le consommateur, lui, ne sait plus quoi penser ni comment choisir. T'as les ONG qui disent « Ah, faut pas manger ça !» Puis t'as les producteurs qui disent « Si, si, ça va, on respecte les normes !» Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ? On ne devrait pas avoir à se poser autant de questions en magasin, juge Sébastien Loctin du collectif En Vérité. Il a raison, Sébastien. Il a raison, Babas. On devrait savoir. On devrait pouvoir savoir ce qu'on peut acheter pour ne pas mettre sa santé en danger et donner à nos enfants. Oui ou non ? Oui, d'accord. Comment ça, que des frites ? Bah, c'est pas sûr, hein. L'huile, tout ça. En même temps, le producteur va pas dire, bah oui, on va vous empoisonne. C'est pas faux, Shikiro. Moi, je bois que de l'eau de pluie. Dracula, je garde la bouche ouverte vers le ciel. Malheureux, surtout pas. je crois avoir lu il y a quelque temps que l'eau de pluie, elle pouvait être extrêmement contaminée. Ne bois pas l'eau de pluie, malheureux. Malheureux. Nos légumes boivent l'eau de pluie. Ouais, je sais, je sais, je sais. Y a rien qui va, y a rien qui va, les gars. Y a rien qui va. Je vous le dis, moi. Voilà, c'est devenu très compliqué, vous le comprenez. Conseil de Mathilde Touvier, co-créatrice du Nutri-Score, et insiste, il ne faut pas faire culpabiliser le consommateur. Toute une partie de la question réside dans un rapport de force entre l'État et l'industrie agroalimentaire. Il y a encore des choses à faire au niveau politique. La politique au sens noble, c'est ça. La politique, hélas, dans les médias, c'est les batailles entre les partis, entre les individus, les ambitions, à l'Assemblée, sur les plateaux télé, et ces machins qui disent ci et ça, et moi je suis pas d'accord avec lui. Mais en fait, la politique au sens noble, c'est ça. C'est comment, socialement, comment un collectif, par ses représentants, peut se protéger de diverses menaces, comme ici, par exemple, la qualité de l'alimentation, quoi. Voilà. Alors, soyons positifs. Le Parisien, qui sent qu'il a créé beaucoup d'anxiété avec son sujet, voilà, nous donne des conseils quand même pour limiter 95% des problèmes. Alors déjà, il y a Fitou qui nous donne un conseil que je trouve de bon aloi, qui nous dit bonjour. Déjà, c'est sympa de commencer par un bonjour. Les gens qui débattent dans le chat ici, parfois, qui disent « Ouais, pourquoi t'as dit ?» Bonjour. Bonjour, commençons par nous rééduquer alimentairement, dit Finitou, avant de jeter la pierre aux industriels que nous faisons vivre grassement. Apprenons également à nos enfants à apprécier les goûts en mangeant de saison, local si possible, et surtout fait maison. Voilà. Le temps de cuisiner peut largement être pris en écoutant un merveilleux stream de nos streamers préférés. C'est très très beau ce que tu dis. Très très beau ce que tu dis. Alors, comment limiter 95% des problèmes? Merci Fred Fred. Face aux pesticides et polluants, il y a des gestes simples à adopter pour limiter 95% des problèmes. Qui dit ça? C'est Mathilde, Mathilde Touvier, qui est chercheuse à l'INSERM et qui est co-créatrice du Nutri-Score. Bon, une bonne nouvelle. Arrête Chantal. La Chantal qui dit, c'est quand la saison des Kinder Bueno? Chantal, bordel. Chantal, tu ne peux pas te nourrir de Kinder Bueno, Chantal. Tu ne peux pas te nourrir de Kinder Bueno, Chantal. Chantal. Chantal, enfin. Non, tu ne nous aides pas, là. Tu ne nous aides pas. Non. Lisons plutôt ce petit article-là. La morale. XCAP qui dit. Oui, il fait la morale. Casse les couilles en vrai. Bon. D'abord, premier conseil. Évitez l'excès de gras, de sucre, de sel. Voilà. On repère ces éléments dans la composition nutritionnelle, le tableau présent sur l'emballage. C'est ce pourquoi nous avons un niveau de preuve le plus fort aujourd'hui, ça on sait. Hein. Trop de gras. Trop de sucre, trop de sel, ça on sait, c'est pas topissime. Voilà. Voilà. Lien avec un risque de diabète, cancer, maladie cardiovasculaire, explique Mathilde Touvier. Donc on peut voilà, éviter, non pas supprimer. Hein. Oui, le gras c'est la vie, voilà. Mais éviter l'excès de gras, de sucre, de sel. Deuxième conseil, choisir bio ou garanti sans résidus de pesticides. C'est l'option la plus efficace pour limiter l'exposition aux traces de pesticides dans les aliments, même quand elles sont sous les limites maximales autorisées. Cela s'applique non seulement aux fruits et aux légumes, mais aussi au jambon et aux viandes. On peut opter pour le sans résidus de pesticides, aliments issus de l'agriculture traditionnelle mais ne contenant plus de pesticides une fois dans nos mains ou nos assiettes. Voilà. Et Sugar dit, mais ça coûte plus cher. Oui, le bio coûte plus cher. C'est vrai, j'allais le dire, tu as raison. Mais il y a aussi les aliments qui ne sont pas bio, mais sans résidus de pesticides. Et s'il y a des aliments qu'il faut privilégier en bio, les spécialistes conseillent les huiles, les œufs, les fruits et les légumes qui ne s'épluchent pas. Cerises, pommes, concombres, poivrons, fraises. Ainsi que les clémentines et les citrons verts. Un récent rapport de l'ONG Génération Future avait montré que malgré leur peau, ils étaient contaminés malgré par des résidus de pesticides. Grenades, noix, kiwis semblent en revanche davantage préservés. Alors vous êtes plusieurs à me dire dans le chat que le bio de grande surface, c'est du greenwashing. C'est pas du vrai bio. Alors, j'ai pas l'info là-dessus, moi. Je vous lis. Alors sur le prix, Motos me dit, le prix du bio a beaucoup baissé ces dernières années, il y a des boutiques qui font des prix pas si chers. Il y a Popoline, à l'inverse, qui dit le prix de l'huile d'olive bio à l'aide, quoi. Sido, n'importe quoi, Samuel, que vous arrive-t-il? Quelle déception! Bah oui, je sais. On perd ses cheveux, écoutez. Sido, je ne sais pas quoi te dire. Je sais, là, c'est la vieillesse, c'est le stress, c'est l'actualité. Merci de te soucier de ma santé. Que m'arrive-t-il? Bah la calvasse, écoute. Merci, Sido. Suis pas sûr que c'est ça qu'elle voulait dire, Sido. Vos messages sont inappropriés. Merci Sido, merci beaucoup. Il faut faire gaffe, on achète du bio, il faut comparer les prix, me dit Moutos. Bio ne veut pas dire sans pesticides, nous rappelle Norg. En France, il y a certes moins de pesticides dans le bio, mais en agriculture conventionnelle raisonnée en France, il y a moins de produits. Donc, pesticides, tu dis, je pense, qu'en bio d'Espagne ou d'autres pays d'Europe. C'est vachement intéressant. C'est très intéressant. Le bio de grande distribution est super cher, me dit Chépifan. Par rapport au bio direct agriculteur ou en boutique spécialisée. C'est intéressant ça. Arrête, Dracarac, il y a des gens qui vont te prendre premier degré. Faut faire attention aux traités d'équivalence, notamment avec l'Inde et la Chine, me dit Eiko Von. Un produit bio chinois sera estampillé bio en Europe par défaut, sans conformer aux exigences françaises. Après, il y a la vie quotidienne, hein. Shibakita, perso, après ma journée de travail hier, j'ai jeté deux pizzas dans le four, j'ai donné le bain à ma fille, j'ai pas le temps de cuisiner bio fait maison, moi. C'est très intéressant. Merci Oscar, merci pour ton message sur la Palestine. Ok, revenons à l'article du Parisien qui nous dit, bon, difficile de s'y retrouver, mais déjà, moins de gras, moins de sucre, moins de sel. Choisir bio ou garantie sans résidus de pesticides. Voilà. C'est pas forcément top, mais si vous le pouvez, c'est quand même meilleur que d'autres trucs. Optez pour des aliments d'origine européenne ou française, mesdames et messieurs. Les teneurs en pesticides des fruits et des légumes cultivés en Europe sont régulièrement évaluées par l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Son dernier relevé indiquait que 96% des échantillons respectaient les limites maximales autorisées. Voilà. Et certains fruits cultivés en France, comme les cerises ou les fraises, contiennent moins de résidus que l'échantillon européen. Donc a priori, nos normes sont plus exigeantes. Voilà. De saison, ils seront aussi moins chers. Ok, ça confirme ce que certains disent dans le chat, hein. Chasser le plastique de la cuisine. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc ultra doux. Chantait un groupe il y a longtemps. Non. 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 Je dis non. Hein. Il est conseillé de veiller aux emballages et ustensiles en cuisine, par exemple en choisissant pour les enfants des boîtes de goûter en inox. De retirer les produits riz céréales de leur emballage pour les cuire ou les réchauffer afin que la chaleur ne fasse pas migrer les microparticules de plastique vers les aliments. Moins de plastique. Hein? Comment ça, nous l'affirmons sans complexe, nous sommes adeptes du latex. Oui, le latex, oui. Hein? Oui, le latex, oui. Oui. Moi, j'ai une combinaison en latex à la maison, intégrale, avec une petite, un petit zip, une petite fermeture éclair. Ça, oui. Mais attention au plastique avec les aliments. De même, il est préférable de choisir des fruits et des légumes en vrac et non emballés et de limiter sa consommation d'eau en bouteille. Voilà. Enfin, remplacer les casseroles à revêtement en téflon dès qu'elles sont abîmées. Quoi, vous n'avez pas de combinaison latex, vous? Bah, tout le monde a une... Bon, c'est un truc, tout le monde a ça chez soi, non? Combinaison latex, là. Tu sais, près du corps, là. Avec le zip pour la bouche. Tout le monde a ça, non? Oui? Non? C'est un truc... Vous n'avez pas ça, vous? Bizarre. Vous êtes bizarre. Je vous la mettrai demain matin. Demain, je présenterai MVP avec. Ok. Noir ou rouge? Les deux, bien sûr. Et enfin, limiter certains aliments. Autre conseil. Les agences sanitaires françaises et européennes fixent une limite quotidienne maximale de cadmium. Ça n'a pas l'air bon, ça. Un métal lourd classé cancérigène présent notamment dans les produits à base de céréales, le riz, les pâtes ou encore le chocolat. Il y avait une maman tout à l'heure qui disait « Moi, je donne beaucoup de pâtes à mes enfants. J'ai l'impression que c'est OK. » Elle me dit « Ne me dites pas qu'il y a de la merde dans les pâtes. » Bah, il y a du cadmium. Ouais. Pour un enfant de 10 kilos, pardon, de 10 ans pesant 30 kilos, elle serait ainsi à peine plus que... Quoi ? Ça veut rien dire cette phrase. Ah oui, c'est la limite quotidienne maximum, d'accord. D'accord. Ah ouais, un enfant de 10 ans, il ne faudrait pas qu'il mange plus d'une barre de chocolat par jour parce qu'il s'exposerait à trop de cadmium, par exemple. Qui est-ce qui me parlait du Kinder Bueno tout à l'heure ? Hein ? C'est Chantal ? Qui voulait manger des Kinder Bueno toute la journée, non ? Eh ben regarde le résultat. T'es full cadmium. Chantal, tu brilles la nuit ? Chantal, elle rigole. Chantal, tu brilles la nuit ou pas ? On te voit la nuit dans le noir ou pas ? Ça, c'est des barres de chocolat, ça. Chantal dit, je brille un peu, je le savais. Donc attention. Des limitations sont également conseillées pour les additifs autorisés. C'est le cas des nitrites et nitrates utilisés pour conserver les viandes transformées qui pourraient accroître les risques de cancer colorectal. L'ANSES recommande moins de 150 grammes de charcuterie par semaine. Bon, moi, je mange pas de charcute. Ok. Restez attentif aux listes d'ingrédients. Dernier conseil, plus elle est longue, plus la liste d'ingrédients est longue, plus l'aliment a été transformé et contient donc des additifs dont les effets sont encore mal connus, surtout lorsqu'ils s'additionnent. Parfois, on peut revenir à des recettes plus simples, comme par exemple mélanger une simple poudre de cacao bio avec du sucre pour faire un bol de chocolat. Voilà. Bon, voilà. Quelques conseils. Oui, c'est moi le visage du cancer du dépistage contre le cancer colorectal. Je suis le fier visage de la lutte contre le cancer du cul. J'ai incarné une campagne de prévention contre le cancer colorectal l'an dernier. Donc voilà. Donc attention, quoi. Regardez un petit peu les étiquettes. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Fier en plus. Et c'est d'où la combinaison latex dont je vous parlais tout à l'heure. C'est autre chose. Parce que à un moment dans le clip, je l'utilise. Donc bah, c'est chaud, hein. Donc attention aux étiquettes, faites attention, quoi. Essayez de. Allez, pour résumer, moins de gras, moins de sucre, moins de sel, attention aux étiquettes, attention aux conservateurs, aux trucs, là. Tout ça. Voilà. Mais en vrai, c'est très compliqué à faire. Hein. Moi, je mange très mal. Hein. Moi, je mange très mal. Et toi, tu fais comment, Sam ? Ben, nul, au Kaido. Je mange très mal, moi. Là, je pense que je suis vraiment pas du tout un bon exemple, moi. Ouais. Je mange très, très mal. Tu manges mal, mais tu grossis pas. Ah, ben, je mange pas en grosse quantité, mais je mange pas bien. Je mange pas bien. Hein, je suis très junk food, moi. Et là, je suis totalement à la bourre sous ces sujets-là, quoi. Là, j'avoue. Hein. Mais manifestement, on nous dit, faites gaffe, les gars, quoi. Je cours toujours, par contre, oui, j'ai repris le sport. Attention, car manger mal n'impacte pas forcément le poids. Je sais, je mange mal, je suis pas gros. J'ai pas de problème de surpoids. Parce que je mange pas beaucoup, mais je mange mal, en qualité, quoi. Pas facile. Almostein me dit, je suis étudiant, j'essaie de respecter au maximum ces précautions, mais mon budget ne me permet pas de consommer bio. Si, Hello. Oui, si, si, mais. Non, mais. Non, parce que j'ai fait une. Il y a Camille qui me dit HelloFresh. Mais attendez, j'ai fait une OP pour HelloFresh il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas vous parler d'HelloFresh, ça va faire pub. Mais oui, je me suis mis un peu à HelloFresh, là, du coup, je mange mieux qu'avant. Mais on ne va pas en parler, ça va faire OP. Stop, stop, stop la pub, là. Ah oui, bordel. C'est pas forcément bio, oui, mais t'as moins de produits transformés, quoi, ça cuisine, quoi. Moi, je mange vraiment très mal, quoi. T'as Julien qui gueule, voilà. Eh, dis donc, la pub dissimulée. Là, je vous avais dit, putain. Okay. Putain, ça y est, ça, encore une sauce. Allez! Allez, encore une! Chaque jour! Vous allez me tuer, hein, vous allez me tuer. Hein. Une sauce bio, j'espère. Comme dit Sugar, une de plus ou de moins. Ouais. C'est spécial quand même. On vit une époque bizarre. Hein. Alors il y a Adams qui nous donne un conseil. Mettez-vous au batch cooking. 2-3 heures de cuisine le week-end. Que du frais et dîner en 15 minutes max chaque soir de la semaine. En fait, tu prépares tes repas pour la semaine. Il y a des gens qui font ça. C'est bien. Je sais que c'est bien ça. Ouais, mais Zabou, je comprends Zabou. Zabou dit, oh là là, se prendre le chou pour tout ce qu'on bouffe. Sérieux, les gens, faut vivre tranquillou, les gens. Non, mais je comprends, hein. Moi, je me préoccupe pas de ça. Mais certains nous disent, il faudrait faire attention, quoi. PTDR, mon élève, elle a dit, c'est qui Samuel Etienne? Il y a des profs qui disent PTDR, chatonc? En vrai? Dis-lui, c'est le BG, il comprendra. Il connaît, il connaît. Il y a des profs qui disent PTDR? Putain, vous êtes jeunes, les profs. Il y a des profs qui ont 28 ans. Mais à 28 ans, tu dis PTDR? Même question, hein. À 28 ans, tu dis PTDR? Non, excusez-moi, à 28 ans, il y a des gens qui disent PTDR? Vraiment? Foutez de ma gueule? Non, ça existe. Hein? Elle a vu ta tête, elle s'est marrée quand t'as dit le BG? Quoi? Mais c'est. Vous n'avez pas marre de m'agresser là, non-stop? Comment ça, elle s'est marrée quand j'ai dit le BG? Ok. Eh ben, je vais pas répondre. Allez, sujet suivant. Je vais lui mettre des coups de frein, t'inquiète. Merci, chatonc. Il y en a marre des jeunes, là. Déjà, hein. Allez. Donc, sujet suivant. Sommaire joli. Interagir. 1h59. Ah, on a parlé longtemps de la bouffe, hein. Là, on passe au pacte du trail. 1h59. Marche bien, mon petit sommaire, là. Il y a Lily Fos qui débarque dans le chat qui dit « Ouais, ah bah les jeunes !» Non, on n'est pas pour la guerre de génération ici, on est pour l'amour. Ici, on est pour la RN, je rappelle. La réconciliation nationale. Vous pouvez clipper ça. Voilà. C'est ma dernière connerie, ça. Maintenant, on va parler du pacte Dutreil. Alors, le pacte Dutreil. Historiquement, c'est un truc qui a été inventé pour limiter les droits de succession sur la succession des entreprises. Hein, pour que bah, éviter que les entreprises doivent être vendues plutôt que conservées par, des familles, quoi. Et parfois passées à l'étranger. C'était l'idée de base. Sauf cette idée a été un peu détournée par, par certains. Voilà. Et il y a un rapport de la Cour des comptes qui arrive, là, et qui dénonce cela, qui dénonce ceci. Voilà. Le pacte Dutreil, un gouffre fiscal au service des milliardaires, nous dit l'UMA. Bon, qui exagère un petit peu aussi, parce que je pense qu'il y a aussi des millionnaires, en fait, qui en abusent. Milliardaire, c'est un petit peu... c'est peut-être un petit peu caricatural. Mais en tout cas, il y a des gens qui en profitent, qui n'auraient pas dû en profiter. C'est ce que dit l'UMA, mais c'est aussi ce que dit la Cour des comptes. Voilà. La Cour des comptes qui rend public aujourd'hui un rapport très attendu qui relativise l'efficacité de cet abattement sur la transmission d'entreprises, qui profite surtout aux grandes fortunes avec un coût exorbitant pour les finances publiques, et donc pour vous, pour nous. Voilà. Il n'est pas courant qu'un rapport de la Cour des comptes soit vilipendé comme idéologique et socialiste. C'est pourtant ce qui est arrivé à celui qui s'intitule, donc ce rapport, « Le pacte Dutreil, un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler ». Voilà. Élaboré par l'Institut des politiques publiques pour l'institution de la rue Cambon. Avant même sa publication, donc c'est pour aujourd'hui, il a été la cible de critiques virulentes, dont celle du créateur du dispositif, portant ce nom, Renaud Dutreil. Merci donc, Kebern. Merci pour le soutien. Ancien secrétaire d'État au PME, au commerce de Jacques Chirac, devenu d'après la Tribune conseiller de Marine Le Pen et Bardella. Renaud Dutreil ? Ancien secrétaire d'État de Chirac, il est devenu conseiller de Le Pen et Bardella ? J'avais pas l'info. Il me reste 1h30 avant. Il y a Olinot qui me dit, il te reste 1h30 avant ton meeting. Mais attends, mais j'ai pas encore annoncé ma candidature pour 2027. Mais je suis pas en meeting en 2025 pour 2027, c'est bien trop tôt. Mais vous connaissez le prix d'un meeting ? Vous connaissez le prix d'une location de salle ? Mais je vais pas partir 2 ans avant, ça va me coûter une fortune. Non, 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 les meetings, c'est pour 2027. Je vais pas... Olinot. Ah, mon meeting, ma réunion, mon Teams. Oh. Ok, ok. Ah oui, ok. Non, meeting. Meeting, salle de concert, des milliers de personnes qui veulent voter pour moi, j'avais pas compris. Ok, d'accord. Donc, je savais pas qu'on a du travail conseiller maintenant Marine Le Pen et Bardella. Ok, info. Il est vrai que les informations de ce rapport, qui ont en partie fuité dans le monde, sont accablantes pour ce mécanisme, qu'est-ce que c'est ? D'exonération. Accordant sous condition un abattement de 75% de la valeur d'une entreprise au moment du calcul de l'impôt sur la succession. C'est beaucoup. Donc qu'est-ce que c'est Dutreil, le pacte Dutreil ? C'est un abattement de 75% de la valeur d'une entreprise au moment du calcul de l'impôt sur la succession dans certaines conditions. Ouais, 75%, oui, bah oui, bah oui. Oui, oui, bah oui, il faut ce qu'il faut. Voilà. Les sages de la Cour des comptes qualifie de faible son efficience, son efficacité économique et évalue son coût à 5,5 milliards d'euros en 2024, ce qui est beaucoup, en raison de règles exagérément favorables. Voilà. À l'origine, pourtant, le pacte Dutreil se voulait un outil de sauvegarde des entreprises françaises. Voilà. Il s'agissait alors d'éviter que les héritiers d'un chef d'entreprise ne soient obligés, lors du décès de ce dernier, de prélever des sommes excessives pour s'acquitter de droits de succession ou de céder l'entreprise à un tiers. C'était ça l'objectif. Voilà. Tous les gens qui me disent pour financer tes meetings, t'as qu'à aller voir Kadhafi, arrêtez. Hein. Vous n'allez pas me mettre en plus de tout le reste les soutiens de Sarkozy sur le dos. Hein. Stop. Je suis pas venu là pour souffrir, moi. Hein. Vous arrêtez. Hein. Les incels, l'extrême droite, les soutiens de Sarko, et quoi encore demain ? Stop, hein ! Bon. Les bottes russes ? Je vous demande de vous arrêter. Les anti-latex ? Hein ? Stop ! Je vous demande de vous arrêter. Bon, on est où là ? Donc, à l'origine, ça voulait être un truc cool, quoi. Le pacte Dutreil se voulait un outil de sauvegarde d'entreprise française. Il s'agissait alors d'éviter que les héritiers d'un chef d'entreprise soient obligés, lors du décès de la personne, de prélever des sommes excessives pour s'acquitter des droits de succession ou de céder l'entreprise à un tiers. C'est pour protéger l'entreprise française. Ok ? À l'époque, cette crainte était en outre alimentée par un nombre croissant d'acquisitions de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire par des groupes étrangers susceptibles d'en restructurer l'activité au détriment de l'emploi du tissu industriel français. Ça rachetait des petites boîtes françaises, ça virait des gens pour faire de la thunasse et tout. Ouais, les salauds ! Voilà. Donc ça, c'était le projet. Créé en 2003, c'est vieux, hein. Le pacte sanctuarisait et renforçait des mesures d'allègement de la fiscalité des transmissions des sociétés qui avaient été prises avant. Voilà. Et il faisait passer l'abattement accordé à l'époque de 50% à 75% de la valeur du bien transmis et s'étendait aux donations réalisées avant décès. Ok. Alors, question maintenant. Cette préservation du capital au sein d'une même famille est-elle bénéfique à l'économie ? Pas si sûr si on en croit les informations divulguées par ce rapport de la Cour des comptes. La Cour n'a pas observé d'impact sur l'investissement ou l'emploi, rapportent les Échos. Seul point bénéfique, les sociétés transmises avec un pacte Dutreil sont moins restructurées que les autres. Comprenez, a priori, il y a moins de licenciements, quoi. Ce capitalisme familial, conforté par le dispositif au nom de la stabilité et du développement d'entreprise, pourrait même avoir des effets contre-productifs. Une transmission familiale pourrait contrarier la restructuration d'entreprise. Ça, c'est le côté libéral qui parle. Attention, c'est marrant parce que... De même, le vivier des repreneurs familiaux étant par nature moins fourni que le vivier des repreneurs extérieurs, la sélection de managers compétents y serait plus difficile. Voilà. On est plus dans une critique, c'est marrant, on est plus dans une critique libérale là, du pacte Dutreil. Et c'est marrant que l'UMA reprenne ses arguments. Mais bon, je dis ça, je dis rien. À défaut d'un réel impact économique, ce mécanisme devenu pour l'essentiel un privilège fiscal est devenu pour l'essentiel un privilège fiscal pour quelques-uns. Le pacte Dutreil est toujours présenté par les libéraux comme un outil de sauvegarde de la boulangerie du coin, mais les deux tiers des sommes qui y sont consacrées profitent à 1% d'héritiers. Et pour ces derniers, l'avantage fiscal moyen est de 30 millions d'euros. Ah ! On n'est pas tellement sur la protection de la petite boulangerie du coin. Avantage fiscal moyen 30 millions d'euros, selon les informations de la Cour des comptes. Les grosses entreprises, celles qui emploient entre 500 et 5000 salariés, sont celles qui utilisent plus ce système de défiscalisation, et pas les petites boîtes. Parmi elles, les plus nombreuses se concentrent dans le secteur de l'information-communication. En d'autres termes, pour l'UMA, la niche profite plutôt à l'empire Bolloré qu'aux petits sous-traitants automobiles. Si le pacte Dutreil a ainsi pu être détourné de son objectif, c'est parce qu'il offre par accumulation des avantages exorbitants. L'exonération qu'il permet est cumulable avec d'autres, comme celle de 50% si la donation de la société est faite en nue propriété et qu'elle a lieu avant les 70 ans du donateur, ce qui revient à un abattement de 96%. Ah ouais, ça commence à faire quand même. Ça commence à faire. Cet avantage a été bien compris par exemple par Bernard Arnault qui a cédé en 2013 son groupe d'une valeur estimée à l'époque à 30 milliards d'euros à ses enfants en ne réglant que 6,5% d'impôts, 6,5%, soit moins de 2 milliards. Effectivement, on n'est pas sur la petite boulangerie du coin là. J'avoue. Plus grave encore, ce dispositif s'applique de la même manière à toutes les sociétés, quelle que soit leur taille ou leur valeur. Les conditions, c'est peut-être ça le souci d'ailleurs. C'est peut-être ça le souci. Les conditions de son octroi n'ont, elles, pas cessé d'être allégées, rendant de plus en plus ténu le lien entre avantage fiscal et préservation de l'outil productif. En clair, les conditions d'encadrement de l'application du pacte Dutreil sont de moins en moins rigoureuses, quoi. En 2003, par exemple, il fallait que l'ensemble des bénéficiaires s'engagent à garder les actions, les parts de la société pendant 2 ans, et 4 ans supplémentaires s'il s'agissait de leur part individuelle, pour pouvoir faire un pacte Dutreil. Voilà. L'un des signataires devait aussi exercer une fonction de direction pendant au moins 3 ans. Déjà minimales, ces contraintes ont été édulcorées par la loi de 2019 qui offre par exemple la possibilité de céder les titres dès les premières années. En gros, avant, l'engagement c'était « Ok, on vous allège vos droits de succession pour vous récupérer l'entreprise de papa, mais vous la gardez la boîte. Bah en fait, ce que l'humain nous dit, c'est que c'est maintenant, dès les premières années, tu peux la vendre, quoi. Dernier point, c'est pas tout, et on va terminer là-dessus, qui explique son usage abusif. Le recours au pacte Dutreil est entouré d'une opacité que le rapport de la Cour des comptes tente de dissiper. Jusqu'à présent, l'administration fiscale s'était montrée incapable de détailler les montants en jeu, à tel point que pendant 10 ans, et en dépit de la hausse du nombre de pactes signés, passé de 700 en 2009 à 3000 en 2021, cette dernière a annoncé un coût inchangé pour les finances publiques à 500 millions d'euros. Évaluation fantaisiste, selon l'UMA. Dès 2021, une étude avait estimé que le coût pour 2000 pactes s'élevait plutôt à 2 à 3 milliards d'euros. Voilà. Malgré ces nombreux abus, le pacte Dutreil reste défendu bec et ongle par la droite et le patronat, au point que la simple volonté de le rationaliser est disqualifiée comme une attaque contre les entreprises françaises. On l'a encore vu lors de la difficile adoption début novembre par les députés d'un amendement destiné à exclure du dispositif les biens à la suite non productifs, yachts, œuvres d'art, résidences secondaires. Puisque dans le pacte Dutreil, certains petits malins arrivaient à faire rentrer des biens non productifs type œuvres d'art, résidences secondaires, etc. Manifestement, si je comprends bien le rapport de la Cour des comptes, voilà, ça part d'une bonne intention, mais disons que ça profite pas forcément à ceux que le cadre visait. KVNSRS 247. Et tu pouvais pas inventer un pseudo plus simple? Écrit, c'est intéressant, mais malheureusement, heureusement que ça existe, dis-tu. C'est pas parce que tu es héritier que tu as l'argent pour payer ce genre de taxes. Faut comprendre ce que l'on peut lire parfois et avoir un minimum de savoir éco. En fait, ce que dit le rapport, c'est que c'est pas un mauvais système en tant que tel. C'est un système qui devrait permettre effectivement aux petites entreprises d'être transmises avec assez peu de droits de succession. Mais estime que les énormes entreprises, et notamment pour les familles qui ont un patrimoine gigantesque, peut-être qu'elles pourraient se permettre de payer des droits de succession. Voilà. J'ai l'impression que les enfants Arnaud, parce que tu disais que tu parlais des gens qui n'ont pas les moyens de payer, j'ai l'impression que les enfants Arnaud évoqués par l'humanité, ici, ont peut-être les moyens de payer ces droits de succession. C'est peut-être un encadrement, une limite. Pour continuer à sauver la petite boulangerie ou le garagiste, mais peut-être en se disant que pour les plus riches, peut-être qu'ils peuvent, eux, payer un peu d'impôts. Il y a Shiba Kitas qui s'interroge, qui interpelle dans le chat, qui dit « Les gens qui soutiennent les pauvres milliardaires, ils sont milliardaires eux-mêmes ou juste un peu teuteux pour pas réaliser que c'est eux qui trinquent au bout du compte ?» Je vous laisse débattre. Vous avez 3 heures. Pourquoi ils prévoient pas ce genre d'abus ? Bah, Nuage Tom, j'ai l'impression que le débat aujourd'hui, c'est justement d'encadrer ces abus, c'est pas de supprimer le pacte Dutreil. Mais c'est d'encadrer ses abus. Bah, Pouponton est contre le fait que les milliardaires payent des impôts. Pouponton commence à demander aux milliardaires de payer des impôts. Ils contribuent déjà largement. Ils financent CNews et le Puy du Fou, ça va, hein? Merci, Pouponton. Merci, Nox, 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 Nox. Je vous lis. C'est intéressant. C'est ce que semble dire ce rapport de la Cour des comptes. Ok, let's go. Quoi je vous parle après? D'éducation. Voici un sujet important. Voilà. Quelle éducation pour nos enfants? Voilà. Quelle école? Voilà. Et si demain, attention, c'est une question volontairement provocatrice des échos, et si demain, il n'y avait plus de profs dans les écoles? Allez, on passe au sujet suivant. Ouh là là, ça a l'air affreux. Ça a l'air spécial, tu l'assures. Je te l'avoue. On est sur du 2h17. Et la petite flèche qui automatiquement se met dans le nouveau sommaire qui est magnifique, c'est incroyable. Pff, quelle débauche de moyens ici. Et je vous mets quoi? Et je vous mets la flèche TikTok sur le sommaire. Des écoles sans prof. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire enfin? Eh bien, je vais vous le dire, mais pas tout de suite. D'abord, je vais me faire couler un petit expresso. Parce que ça a pas beaucoup dormi cette nuit. Vous me donnez 30 secondes? Non, pas un bain. Non, pas un bronze. Oh, c'est dégoûtant. Un expresso.
Allez, pour 10 secondes.
Attends, stop. Sinon, ça fait quoi d'être l'objet d'un article dans le Figaro pour avoir utilisé le mot facho? Ah, putain, le Figaro en parle, génial. J'ai pas utilisé le mot facho, donc ce serait déjà une fake news. Génial. Ça y est, c'est ma campagne pour la présidentielle qui est lancée. Le Figaro, c'est étonnant. Bah non, je l'ai pas, l'article. Ah si. Julia Bodin. Ah oui, mais c'est pas dans le Ah oui, c'est pas dans le Figaro Figaro. C'est pas dans le Figaro PDF le Ah oui, non, c'était ouais, c'était VMag le Figaro. Non, c'est pas le Figaro. Non, tu m'as déçu. Alors, déjà, il y a le Figaro PDF, on va dire c'est la vitrine du journal, c'est la version papier. Voilà. Et après vous avez le site internet où il y a des articles, on va dire, que le journal a jugé moins intéressants, moins importants, ou qui vont être moins lus. Donc voilà. Et après, c'est même pas ça, là. C'est TV Mag, c'est le magazine télé, ouais, qui est distribué, qui est lié au Figaro. Donc je suis déçu. Je suis même pas. Donc on s'en bat les steaks. Voilà. Donc c'est le TV Mag. Donc on n'est pas sur les médias les plus. Hein. Bon, désolé. Donc ça n'a aucun intérêt. Me faire un petit café. Oh, je suis déçu, je suis déçu. Vous m'avez. J'ai cru que j'étais dans le Figaro. À tout de suite. Mets une pub pour le café. Non, pas de pub. Parlez-vous. Parlons-nous. Faites-vous des câlins. Faites-vous des poutous. Non, pas Philippe Poutou, arrêtez avec la politique. j'ai lancé le café. Ici, on vit dans le danger. Ici, on vit dans le danger. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un rasoir, ça. Parce que je me rase tous les matins. D'accord. Où était ce rasoir? Je vous le donne en mille. Où était ce rasoir? Je vous le donne en mille. Il était où, ce rasoir? Il était où, ce rasoir? Il était... Non, pas dans le café. Il était dans ma poche. Arrière de jean. J'ai fait 2h21 de revue de presse avec ce rasoir dans ma poche de jean entre mes fesses et la chaise, quoi. Voilà. Parce que bon, ces trucs, ça s'use. J'ai vu qu'hier, ça commençait à raser moins. Je l'ai changé ce matin. Et donc, je l'ai mis dans ma poche pour le mettre à la poubelle. Il n'était pas dans la poubelle. Il était dans ma poche. J'étais assis dessus. Voilà. C'est pour ça que ça me gratouillait un petit peu. Comment ça, c'est un stream rasoir? Non. C'est pas du tout c'est un stream passionnant. Ça fait mal, ça coupe, oui. Ouais. Ne vieillissez pas. Hein. La vieillesse, c'est un naufrage. Je reviens, je cherche mon café. Ah, les écoles sans prof. Alors, il y a Ryu Fight qui dit « L'article TV Mag est même pas bien fait. Ils disent que la matinée Étienne a lu tous les dimanches. » Eh oui, bah oui, mais c'est y a, en matière de médias, il y a qualité et qualité. Les gars, il y a des médias qui sont plus comment dire, rigoureux que d'autres, quoi. Eh oui, c'est comme ça, les gars. Mais vous le savez déjà depuis longtemps. C'est bon. Mais peut-être qu'on est dimanche, hein. Peut-être qu'on est dimanche. Alors pour le coup, la matinée Étienne, c'est le seul jour où je fais jamais la revue de presse, c'est vrai. Ils avaient presque bon, en vrai. Ils avaient presque bon. Presque. Comment ça, chez Ronex, TV Mag est au journaliste que Samuel est à Valorant? Putain, vous êtes méchant. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'école sans prof? Voilà. L'éducation nationale traverse une crise sans précédent, ça on sait, qui entame la motivation des enseignants les plus engagés alors que se profite d'une vague massive de départ à la retraite. Est-ce que demain, les IA... Quoi ? ...vont prendre le relais. Depuis un an à Londres, 20 élèves du David Game College... Bon, 20 élèves, calmons-nous, vous allez voir. N'ont plus d'enseignants à saluer en rentrant dans leur classe. Avec l'accord et le financement de leurs parents, ils passent leur journée assis devant l'écran d'un ordinateur dopé à l'IA ou coiffé d'un casque de VR pour faire leurs apprentissages. Donc ces 20 élèves de Londres, là, ils n'ont pas de prof. 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 Exercer quelques matières difficiles à appréhender par un algorithme comme l'art, les interactions humaines sont inexistantes et les compétences interpersonnelles passées sous silence. Voilà. Pas de débat, pas de questions, pas de digression, pas de prise de parole. Aucun de ces échanges et de ces confrontations fut-elle tendue qui forge l'esprit critique et la créativité. L'analyse des données permet en revanche de créer des expériences d'apprentissage personnalisées en identifiant les domaines dans lesquels l'élève a le plus besoin d'aide, défend cet établissement UP de la City, on est dans une école un peu chicose. Nos apprenants sont plus engagés et plus motivés que dans les classes traditionnelles. Les IA s'adaptent individuellement à leur rythme, à leur style, conçoivent des révisions efficaces, renforcent leur confiance, leur concentration, leur autonomie, aident les tuteurs pédagogiques à mieux identifier les axes de progrès. C'est ce que explique le co-directeur de l'école. L'expérience facturait 30 000 euros l'année aux parents. 30 000 euros par an quand même, l'école. Voilà. Bon, qui ne vont pas financer... des salaires de prof, puisqu'il n'y a pas de prof. Par contre, le co-directeur de l'école, John Dalton, il doit être bien. 30 000, ouais, 30 000, ouais. Ah bah c'est le privé, les gars. L'expérience facturée... Bah attendez, on parle de 20 gamins, hein. C'est une toute petite expérience. Hein. L'expérience facturée 30 000 euros l'année aux parents fait naturellement polémique. Mais elle ouvre le débat alors que l'éducation nationale traverse en France la pire crise de son histoire. Vocation en berne. Hein, vous savez que les concours d'enseignants n'arrivent pas à recruter, quoi. Hein, y a de moins en moins de candidats. Enseignant à bout de nerfs, les conditions de travail des enseignants sont très difficiles. Valse ministérielle, cette rentrée encore pour la quinzaine d'années consécutives, plus de 1700 postes ouverts au métier n'ont pas été pourvus, c'est pas moi qui l'invente ça. Régulièrement dénoncée pour ses dérives kafkaïennes, la gestion très particulière des ressources humaines des enseignants n'y est pas étrangère. La gestion de masse que le ministère assure globalement grâce à des procédures robustes doit se conjuguer avec une approche plus qualitative, individualisée. Conseille la Cour des comptes. Les magistrats pointent encore la Cour des comptes. Les magistrats pointent en particulier le besoin d'une plus grande reconnaissance professionnelle et d'une meilleure prise en considération des situations individuelles. Mais aussi le traitement insuffisant des risques psychosociaux, la rigidité des procédures, qui illustre la gestion de la mobilité géographique, qui est fondée sur un barème à points que vous connaissez peut-être. Les syndicats dénoncent des pratiques médiévales. CAPES en poche, les jeunes padawans sont par exemple régulièrement affectés loin de chez eux, généralement dans des établissements difficiles, sans tenir aucun compte de leur situation familiale et des surcoûts induits pour les couples, double logement, double charge, transport, etc. Padawan, les jeunes profs quoi. Le déséquilibre entre l'exigence du métier, c'est un métier magnifique, c'est un des plus beaux métiers qui soit. La reconnaissance accordée, notamment par la société, qui ne considère plus ses enseignants, et les conditions concrètes d'exercice alimentent un sentiment de déclassement et d'abandon délétère pour l'attractivité du métier d'enseignant. Alors que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Seuls 7% des profs, 4 fois moins en moyenne que dans les autres pays de l'OCDE, estiment ainsi que leur profession est justement valorisée dans la société. Il n'y a que 7% des profs en France qui estiment que leur profession est justement valorisée par la société. Les causes sont connues, rémunération jugée insuffisante, relations dégradées avec la hiérarchie, tension croissante avec les élèves et leurs parents, des classes surchargées. Soutenons les profs en vrai. Et ceux, les rares qui disent encore, il y en a de moins en moins, heureusement les gens ont compris. Oh là là, le métier de feignant, les vacances là, bien trop payé là. Faites-le. Ce métier magique, tellement cool, tellement chill, avec tellement de vacances, hein, bien payé pour ce qu'il est, franchement, faites-le. On a besoin de profs. Faites-le. Et après, revenez nous voir et racontez-nous votre expérience. Le malaise des enseignants se mesure dans l'évolution inquiétante des démissions qui doit être considérée selon un récent rapport du Sénat comme un signal d'alarme. Il y a de plus en plus de démissions de profs. 2400 enseignants ont volontairement quitté l'éducation nationale en 2024. C'est presque 7 fois plus qu'il y a 10 ans. Un signe des temps, des coachs en reconversion se font jour pour aider les enseignants en détresse à trouver une nouvelle voie. Voilà. Plus de 60% des enseignants disent vouloir quitter l'éducation nationale et ceux qui le font sont généralement les plus investis dans la transmission des savoirs. Vous voyez, il y a un truc qui ne va pas. Ces carences structurelles laissent du champ aux entrepreneurs. La filière EdTech française connaît une accélération inédite. Explique Jérôme Fabry, un expert éducation chez EY Parthenon, qui a recensé plus de 500 startups spécialisées dans la formation, dont le quart se consacre exclusivement au segment scolaire et à l'enseignement supérieur. Ces talents-là, ces profs qui s'en vont de l'éducation nationale, parfois tu les retrouves dans des petites boîtes privées, hein, qui ont bien compris qu'il y avait un marché aussi. Voilà. Alors revenons à l'IA. Remplacer les enseignants, dont on va manquer à un moment, par les algorithmes, c'est un scénario probable car la médiocratisation qui a touché les élèves avec les classements internationaux désastreux que l'on connaît gagne à présent le corps professoral. On est aujourd'hui dans la même situation qu'au lendemain de la guerre 14-18 quand le déficit de professeurs morts dans les tranchées a féminisé le métier. Cette fois, c'est la technologie qui va remplacer les effectifs démissionnaires et la vague de départ à la retraite qui se profile, pronostique un ancien enseignant qui s'appelle Jean-Paul Brighelli, qui est connu pour ses critiques du système éducatif français. Vive le papier, clame toutefois nombre de résistants, à l'image de Maëlys, professeur de lettres en REP+, dans les quartiers difficiles de Marseille. Je veux continuer à enseigner quoi qu'il m'en coûte, même au pire des cancres. Construire l'esprit critique des élèves, il va de la sauvegarde de notre démocratie. J'ai envie de dire bravo, madame. L'IA ne saura pas faire ça, juge-t-elle. Elle prend la Suède pour modèle. Précurseur en 2009, le pays avait choisi de remplacer les livres par des ordinateurs, je me rappelle de ça. Pour préparer les écoliers au monde de demain, il vient de décider, ce pays, d'investir plus de 100 millions d'euros pour revenir en arrière et équilibrer le numérique et le papier dans un apprentissage hybride. Ouais. Pas mal ce petit papier là. Il est où mon café? Galidron me dit, je suis jeune enseignante et c'est de plus en plus difficile, je trouve, les relations se dégradent avec les parents, nous ne sommes pas écoutés, de moins en moins de moyens qui nous empêchent de prendre en charge correctement tous les profils d'élèves, hein, avec une école, je l'ajoute par ailleurs, qui est plus inclusive qu'avant, voilà. Il y a encore des progrès à faire, mais qui fait que les élèves devant les enseignants sont plus divers qu'avant. Ce qui nous fait tenir, dit Galidron, c'est la passion et nos élèves. Bravo. Quelqu'un me demande c'est dans quel journal? C'est dans Les Échos d'aujourd'hui, page 12. Grégorio, j'avoue que je suis bloqué dans ma carrière d'ingé, je pense à la transition vers l'éducation, mais tout ça me dégoûte tellement que je ne sais pas si je ferai le si je sauterai le pas. Je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis. Ce qui me paraît hallucinant, me dit Géry, c'est de considérer que les profs n'enseignent que des savoirs. Il y a tellement d'apprentissages sociaux primordiaux que les IA ne peuvent pas transmettre. Ah bon, on est bien d'accord, Yaz. Coucou Samuel, je me permets de donner mon point de vue par rapport aux enseignants, surtout en élémentaire. Je suis animateur, nous avons une relation très particulière entre nous car nous devons beaucoup communiquer. Je peux vous dire avec ce que j'ai vu qu'ils sont loin d'être des fainéants, bien au contraire, nous devons leur montrer toute notre reconnaissance, dit Yaz. Les voir arriver à 7h30 à l'école et partir à 19h30, 20h, ce n'est pas normal. Moi je dis force aux enseignants, voilà. CLAP, j'espère que je prononce bien ton pseudo, c'est peut-être CLAP, peut-être CLAP Trapin peut-être. Coucou, jeune enseignant en REP, ici confronté au manque de moyens, les limites de l'école inclusive avec trois élèves Ulysse qui devraient être en établissement médicalisé, mais j'aime quand même ce que je fais. Après, alors que, évidemment, l'article est un peu provoquant. L'idée de remplacer l'enseignant par une IA est stupide. Après que l'enseignant demain se serve d'outils d'IA pour améliorer son cours, bon, bah, ça, l'IA n'est qu'un outil. On en fait du bien ou du mal. Donc, ça, c'est pas un problème. Hop ! Transition parfaite. Dernier dossier de ce matin dans La Croix. Est-ce que l'IA est en train de nous rendre complètement neuneux. Voilà. Question volontairement provocatrice pour créer le débat, vous l'avez compris, La Croix est un journal de qualité. Je vais sur mon joli sommaire, je vais sur cette question, l'IA nous rend bête, et je note le TC, nous sommes à 2h35. La rigueur mathématique de ce stream est fascinante. Voilà. C'est fou, c'est beau, c'est magnifique. Je vais sur TikTok, je vous mets la petite flèche, parce que vous l'avez mérité. Let's go. Ah oui, ça transite ici, hein, ça transitionnette. C'est magnifique. L'IA nous rend bête. Alors, l'IA nous rend bête, point d'interrogation. Point d'interrogation. Vous allez voir, le dossier est vraiment assez passionnant.
go.
Le système d'IA générative ChatGPT, pour ne parler que de celui-ci, lancé il y a tout juste 3 ans, approche du milliard d'utilisateurs. C'est devenu un phénomène de société. Ces machines se voient souvent prêter à tort des capacités mentales et intellectuelles. Hein. Le terme d'intelligence est dénoncé par beaucoup. Mais que font-elles aux nôtres ? Quelles sont les conséquences de l'IA sur notre propre intelligence ? C'est la question. Là, on va relancer le débat entre anciens et modernes, ici, et on va se régaler. Elles sont 800 millions par semaine des personnes qui, dans le monde, dialoguent avec ChatGPT. Depuis son éruption tonitruante sur la planète Tech il y a tout juste 3 ans, c'est fou, hein, c'est pas vu, hein. Le 30 novembre 2022, l'agent conversationnel de la société californienne OpenAI a connu une diffusion spectaculaire sans jamais se laisser rattraper par ses concurrents. À eux tous ces systèmes d'IA génératifs font désormais partie des pratiques numériques de 4 Français sur 10. 4 Français sur 10. Selon les derniers chiffres de Médiamétrie, réflexe particulièrement ancré chez les jeunes, les 3/4 des 15-24 ans utilisent chaque mois ces machines à générer un texte crédible après avoir été entraînés sur des quantités massives de données. Hein. IA générative. Pourquoi faire ? Selon un baromètre publié en avril, leurs utilisateurs y recourent pour effectuer des recherches, 34%. De temps en temps, un grand esprit se lève et éclaire de sa lumière le brouillard dans lequel nous sommes, pauvres humains, condamnés à errer. De temps en temps, une parole s'élève et nous fait tout comprendre. Comme à l'instant, pardon Light Yagami, c'est juste pour rire. Light Yagami, deux points, ouvre les guillemets. Les médias ont trouvé leurs coupables idéaux. Trump, Poutine, Israël et l'IA. On a compris la musique, nous ne sommes plus dupes. Grâce à toi, nous venons de comprendre. Merci beaucoup. Je continue. Donc, pourquoi faire ? Pourquoi les jeunes français utilisent l'IA ? Effectuer des recherches, 34%. Gagner du temps dans leur vie quotidienne, 28%. Corriger des fautes d'orthographe, 23%, c'est pas mal ça. Stimuler leur créativité, 13%. Renforcer leur confiance en eux, 10%. Voilà. C'est plutôt des utilisations intéressantes en vrai. Ces derniers mois, ChatGPT et consorts sont de fait devenus pour une partie de leurs utilisateurs une sorte de confident aussi, auquel raconter ses chagrins ou solliciter des conseils intimes. On a parlé aussi de ce côté psy parfois des IA génératives. Même sans aller jusque-là, solliciter quotidiennement ChatGPT pour trouver un mot, une idée, semble bel et bien affecter les capacités cognitives. C'est ce qu'a montré une expérience menée avant l'été par le MIT auprès de 54 étudiants de Boston. Bon, 54 étudiants, c'est pas beaucoup, quoi. Mais on va lire quand même cette étude. Leur activité neuronale a été mesurée pendant qu'ils rédigeaient une dissertation. Certains ont entendu parler de cette étude. En 20 minutes, les uns avaient ChatGPT, les autres un moteur de recherche de type Google, les derniers aucun soutien externe. Ok. Conclusion, le troisième groupe, celui qui n'avait pas de soutien externe, opérait nettement plus de connexions neuronales que les deux autres. Le premier groupe, qui avait ChatGPT, était le plus lésé des trois avec une baisse moyenne de 55% de l'activité neuronale. En particulier dans les zones liées à la mémoire, la résolution des problèmes et de l'attention. Ces étudiants assistés par ChatGPT se souvenaient du reste beaucoup moins bien que les autres de ce qu'ils avaient écrit. L'étude concluait à une diminution probable des compétences d'apprentissage, de recours à l'IA pouvant favoriser un traitement passif de l'information. Plus trivialement, une partie de la presse mondiale en a conclu que ChatGPT rendait bête, ce qui est sûrement un raccourci. Bien que l'étude n'ait pas encore fait l'objet d'une publication scientifique, bon, une étude sur 54 personnes, ça me semble un petit peu court personnellement, dit d'une relecture par ses pairs, ses résultats paraissent crédibles aux yeux de Laure Taboui, qui est une neuroscientifique et éthicienne. Merci Flowin Floods pour le soutien. Et qui dit déléguer, salut Noctalie, déléguer le raisonnement humain à des algorithmes probabilistes, cela engendre une perte d'effort cognitif et une perte de pensée critique. Explique cette docteur et doctorante. Elle va même plus loin, sur le long terme, il y a un risque d'atrophie de certaines zones cérébrales au détriment d'autres. N'oublions pas que le cerveau est adaptable, plastique, les techniques l'ont toujours fait évoluer, comme le feu, la chasse, etc. Même sans remonter aussi loin dans le temps, il semble pertinent qu'inscrire ChatGPT dans la longue histoire de l'externalisation des savoirs, c'est intéressant, l'écriture, l'imprimerie, la calculatrice, Internet. Ce parallèle conduit certains observateurs à remettre en cause la gravité supposée du moment. Hein. En mode, les gars, est-ce que la calculatrice nous a rendus plus bêtes? Je pose la question. À chaque fois, certains ont prédit un effondrement de l'intelligence humaine, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, explique Justine Cassel, qui est directrice de recherche en IA. Voilà. Elle dit, moi qui suis nul en maths, je suis bien contente de pouvoir faire mes comptes avec une calculette. Je ne compte pas lui confier ma vie pour autant. Est-ce que la calculette nous a rendus débiles? Est-ce que la machine à écrire nous a rendus plus bêtes? Voilà. Le débat est intéressant. Sans contester une forme de continuité avec les techniques précédentes, la philosophe Anne Alombert souligne néanmoins qu'avec l'IA générative, il y aurait une rupture plus forte donc qu'avec les révolutions technologiques finalement précédentes. Désormais, c'est le langage qu'on automatiserait rapidement auprès de nombreuses personnes, explique-t-elle. Or, le langage mobilise nos capacités d'interprétation, d'imagination, de mémoire. En déléguant notre expression à des machines algorithmiques, c'est tout cela qu'on court-circuite. Donc, cette philosophe, elle dit, c'est pas pareil. C'est pas pareil que les révolutions technologiques, ça va un peu plus loin. La chercheuse qui fait volontairement le parler avec l'automatisation industrielle du début du XXe parle de prolétarisation de l'expression. De même que l'ouvrier incarné par Chaplin dans les temps modernes intériorise certains gestes à force de travailler sur une chaîne de montage, les utilisateurs quotidiens de ChatGPT pourraient intégrer des habitudes langagières, des automatismes. C'est ce que confirment au moins deux études parues en 2024 et 2025 qui soulignent une forme de contamination linguistique. L'humain se met à parler comme l'IA. Après avoir passé au crible des centaines de milliers d'heures de podcasts ou de vidéos YouTube en langue anglaise avant et après le lancement de ChatGPT, ces chercheurs d'Allemagne et de Floride ont détecté une augmentation mesurable et soudaine de l'utilisation des mots préférés des agents conversationnels. En anglais, delve par exemple, approfondir, ou encore meticulous, méticuleux. Waouh. Cela ne dérange pas que ChatGPT ait un impact sur le langage, tout a un impact sur le langage, réagit Justine Cassel. La langue, elle évolue après tout. D'autres observateurs se montrent moins rassurants, soulignant l'uniformisation culturelle à laquelle participent ces engins statistiques qui, par leur fonctionnement même, renforcent les moyennes, les stéréotypes, les clichés. Veut-on vraiment leur abandonner notre style propre pour des expressions standardisées? N'oublions pas que ces produits numériques sont conçus en toute opacité par des entreprises dont le seul but est de générer des profits. Vraie remarque, par contre. Vraie remarque. Et je voyais un mail. Je lis mes mails en même temps, deux taf. Où est-ce qu'il est? Ok. Pour l'heure, ces services n'ont pas trouvé leur modèle économique, mais il n'est pas exclu que celui-ci repose à terme sur la publicité subtilement intégrée au fil de la conversation. Ouais. En disant « je », en relançant systématiquement l'utilisateur en allant toujours dans son sens sans jamais le contredire, ChatGPT et les autres usent d'ores et déjà la technique de captologie éprouvée par les réseaux sociaux pour retenir l'attention le plus longtemps possible. On est sur un marché de l'attention. Ce faisant, ils alimentent à dessein une confusion avec... Pardon, qui est cet être avec qui je dialogue? Tout est fait pour favoriser les projections anthropomorphiques. On simule qu'il y a de l'autre alors qu'il n'y en a pas, insiste Anne Alombert. Ce que nous renvoie cette chatbot, c'est un reflet technologique de qui? De nous-mêmes. Un calcul configuré à partir de nos propres données. Nous sommes face à nos propres reflets, mais comme narcisse, nous le prenons pour un autre. C'est pas mal ça. Autre risque de nous déshabituer de l'altérité véritable. Déjà qu'on a de plus en plus de mal avec l'altérité avec l'autre. Car l'autre, le vrai, n'est pas disponible à 2h du matin, n'est pas toujours d'accord avec moi, ne répond pas docilement à mes ordres. Tout le contraire de ChatGPT en somme. La neuroscientifique et éthicienne Laure Tabouy recommande donc de résister à cette confusion voulue par les constructeurs en s'adressant aux agents conversationnels de manière très factuelle, à l'impératif et sans le moindre affect. C'est une grande base de données, On peut considérer qu'on a de la chance de l'avoir à notre disposition, mais c'est tout. Voilà. Pas mal ce dossier. Pas mal ce dossier. Vous en pensez quoi ? Oscar. J'utilise beaucoup l'IA dans mon travail pour du codage, de l'aide sur des logiciels. Je me force à ne pas y recourir pour les mails, les recherches. Comme je l'utilise pour raisonner, j'ai peur de perdre certaines capacités, donc j'utilise l'IA elle-même pour me générer 3 exercices cognitifs 2 fois par semaine pour travailler et ne pas perdre certaines capacités. Waouh, c'est assez impressionnant en vrai. Zinedine Schumacher. J'utilise l'IA comme un assistant dans mon travail et pour m'aider à brainstorm. C'est un outil exceptionnel lorsqu'on s'en sert comme un outil. Il ne doit pas faire écrire les choses pour nous. Il faut toujours relire, challenger, contredire l'IA. Ne jamais accepter ce qu'elle donne tout cru. Surtout avec ChatGPT, Claude cherche beaucoup moins à aller dans l'autre sens. Vous êtes chaud. Hein. J'aime bien. Linux me dit, j'utilise l'IA pour remettre en forme mes idées créatives, mais je lui demande de ne rien ajouter. Lois Lane me dit, moi je lui fais corriger les fautes d'orthographe, mais j'aime pas trop parce qu'elle reformule souvent mes textes. Bon, en fait, je crois que tout le monde ici a conscience que l'IA peut être un outil formidable s'il reste un outil à notre service et qu'il ne vient pas, qu'il ne provoque pas des effets délétères. Il y a Guy Durone qui dit personnellement, j'utilise l'IA quotidiennement. Je pense que je suis effectivement moins futé qu'avant, mais je suis plus productif. Hydro-Eugène, j'ai arrêté d'utiliser l'IA pour des plans de dissertation, alors que je le faisais quasi systématiquement hors examen au lycée, et j'ai l'impression de récupérer certaines capacités. Salut Samuel, je pense qu'il faut davantage d'éducation et de formation autour pour construire d'excellents prompts et obtenir exactement ce qu'on recherche. Moi, je pense que je devrais l'utiliser plus, moi. Je n'utilise pas d'IA, moi, générative pour mes textes, pour mes trucs. Je pense que je dirais peut-être moins de conneries sur Internet. Mais non, justement, c'est ça qui est bon. Chacun sa pensée, sa singularité. C'est ce qui nous rend humains, très humains. Trop humains, disait Gide. Les amis, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Voilà, j'ai une réunion à 12h30. Donc, je suis bien. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de se dire au revoir tout de suite. Je vais vous rappeler qu'on a un joli MVP demain. Demain matin, le retour d'MVP. Voilà. Ma vie pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver la sienne. On soit des pros, des gens qui témoignent de leur parcours, voilà, du secteur d'activité dans lequel ils travaillent, de leur métier. On a des chroniqueurs, on a des invités. C'est une belle émission, je suis très très fier. Et on aura Mastu qui viendra témoigner de son propre parcours, le créateur de contenu, le streamer, le youtubeur, à partir de 12h. C'est MVP, c'est demain. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous retrouve demain matin, 10h MVP, mais dès 9h pour la revue de presse, ce sera une mini-revue de presse. 10h MVP, 12h Mastu. L'après-midi, normalement, je vous fais une grosse revue de presse pour compenser la petite du matin, mais... J'interviens dans une conférence sur l'éducation demain après-midi. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je stream du gaming ce soir ? Il y a peu de chances, parce que du coup, il faut que j'écrive l'émission MVP. Ça me prend quelques heures pour vous faire ça tout bien. Et donc, je pense que je ferai peut-être pas de gaming ce soir. Je vais plutôt bosser sur MVP. Voilà. Donc, je vous dis à très très vite. Bon, on va faire un raid par contre. Faisons déjà un grand au revoir à nos amis TikTok. Merci d'avoir été là, les amis TikTok. Je vous retrouve demain. Il n'y aura pas sur TikTok. Quand il y a MVP, c'est tout sur Twitch. Donc, amis de TikTok, pour la revue de presse, vous, c'est jeudi matin. En revanche, venez avec nous sur Twitch à partir de 9h demain et vous aurez tout. Vous aurez la revue de presse et vous aurez Twitch. Des bisous. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin, ça fait plaisir. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et nous, sur Twitch, on va faire un raid. Est-ce qu'on peut envoyer de la force à Demoiselle Sauveur? J'ai un entretien tout à l'heure pour un poste que je veux absolument avoir. J'ai rarement été aussi stressé. On t'envoie un maximum de force. Ça va le faire. Qui qu'on va voir? Comme dit Fabricadon, qui est en live? J'aimerais bien Red Zera. Zera, il fait des matinales en ce moment, mais il s'arrête à 9h. Alors, qui est en live? Bah, eh! Vous voulez rester sur l'actu? Il y a l'ami Simon Puech, le grand vainqueur de la dernière édition de Time Out, qui est en live. Et Simon, c'est quelqu'un qui est génial et qui s'intéresse beaucoup à l'actualité. Et qui parle notamment de l'affaire des rafales, là, tout ça. Je vois qu'il y a du monde là. On va lui donner la force? C'est pas mal, non? Allez, on va voir Simon. Il est bon, le Simon. Comme ça, on reste sur de l'actu. Et il est coolos. Coolos, putain, c'est quoi ce terme que je viens d'utiliser du Moyen-Âge? Coolos? J'ai dit que Simon Pêche était coolos? Oh putain. Des bisous! À demain matin pour MVP. Ciao, ciao. Coolos, putain, c'est pas possible. Non, mais non, mais non, mais non, Samuel Etienne, mais non! Allez, c'est parti. Ça part dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Et en plus, vous êtes super coolos.
Côté russe. Non, je ne l'ai pas abordé, mais on va en parler. Ouais, Samson, t'as raison. Salut, Guyron. Ah, mais c'est fou! Samuel, à chaque stream, tu fais ça maintenant. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Sam? Chaque stream, il est en mode... Allez, c'est bon, ça part chez Simon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Attendez, regardez. Regardez les Samuel... Les Samuelos. Regardez.